Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Soyez les bienvenus dans votre grand journal. Deux heures d'infos et de débats pour vous offrir le meilleur panorama de l'actualité. Et à la une de ce dimanche 6 octobre, Christophe Castaner qui reconnaît des dysfonctionnements dans le suivi de l'assaillant de la préfecture de police. Comment remonter à présent le fil des responsabilités? 18h15, notre invité en poste à la préfecture de police, commissaire Jean-Paul Maigret, nous rejoint. 18h50, une chanson dans la tête. À l'occasion du premier anniversaire de la disparition du grand Charles Aznavour, on revit avec Fabien Lecoeuvre 5 de ses chansons cultes. 19h15, journée dédiée à 11 millions de Français, les aidants, ceux qui accompagnent un proche âgé, malade ou handicapé. Le docteur Hélène Rossignol veut aider les aidants, elle sera avec nous. 19h30, le grand débrief de l'actu, je reçois ce soir l'éditorialiste Yves Tréhard et Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Voilà pour une partie du programme, merci de votre fidélité. C'est l'heure des infos avec vous, Fabienne Lemoyle, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir. Bonsoir à tous.
18h.
Évidemment, il y a eu des failles et s'il y a eu des erreurs d'appréciation, il faudra les sanctionner. C'est indispensable.
Constat sans appel du ministre de l'Intérieur 3 jours après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris. 2 missions sur les agents de la lutte contre le terrorisme sont lancées.
Les opposants à l'extension de la PMA dans les rues de Paris cet après-midi pour dénoncer cette réforme.
On est très 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 heureux qu'il y ait autant de monde. C'est vraiment une réussite prévue par personne.
Vers l'ordination d'hommes mariés comme prêtres, la question est en tout cas à l'ordre du jour au Vatican du synode sur l'Amazonie.
Enfin, va-t-on être privé de choucroute cet hiver à cause de la canicule de l'été? Question sérieuse et inquiétude des agriculteurs alsaciens.
Les feuilles n'ont pas grandi et puis il y a des allées en courant. Il y a tellement peu de feuilles qu'on peut passer avec le vélo, oui.
On est ensemble jusqu'à 20h, soyez les bienvenus sur Europe 1. Évidemment, il y a eu des failles, Fabienne Lemoyle, le constat est sans appel 3 jours après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris.
Et ce constat, Wendy, il est signé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur était l'invité de TF1 à la mi-journée.
Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, 1 femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Mais il faudra, avant de chercher des sanctions, il faut comprendre. Et ce qui compte, c'est de comprendre. Et donc ce qui compte aujourd'hui, et c'est la mission qu'a confiée le Premier ministre à l'inspection du service de renseignement, c'est que nous puissions voir à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux des services de renseignement, comment nous devons mettre le tamis le plus fin possible pour lutter contre toute forme de radicalisation. Mais dans le cas présent, il y a eu effectivement un dysfonctionnement. L'enquête et l'instruction judiciaire pourront permettre de l'établir. La mission qui a été confiée à l'inspection générale par le Premier ministre devra permettre de l'établir. Et s'il y a eu des fautes, nous les corrigerons. Et s'il y a eu des erreurs d'appréciation, il faudra les sanctionner. C'est indispensable.
Voilà pour ce constat de Christophe Castaner qui appelle des questions et des explications. Avec nous, Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Première question, Guillaume. Le ministre de l'Intérieur dit à l'instant qu'il faut comprendre ce qui a dysfonctionné. Et c'est vrai que l'on ne comprend pas pourquoi rien n'a alerté dans le comportement de l'assaillant. Je le rappelle, agent de maintenance informatique dans le service de renseignement de la préfecture de police, alors qu'en 2015, 2 de ses collègues avaient signalé son attitude après l'attentat de Charlie Hebdo.
Oui, ils avaient signalé oralement son attitude après une discussion entre collègues en juillet 2015, 6 mois après l'attentat. Cet agent avait eu des mots jugés déplacés par 2 de ses collègues qui avaient alerté en interne, mais la procédure n'est pas allée à son terme en réalité. D'après Christophe Castaner, le policier référent sur les questions de radicalisation s'est bien déplacé. Il a rencontré les 2 fonctionnaires qui n'ont pas souhaité concrétiser leur signalement. Ils n'ont pas voulu lancer de procédure contre l'informaticien. Sans doute parce qu'à l'époque, ils ont estimé que cette phrase ne méritait pas d'aller plus loin. Il n'y a donc jamais eu de trace écrite et on ne sait pas si toute la hiérarchie en a été informée. Évidemment, 4 ans après, et à la lumière du drame sanglant de jeudi, cette erreur d'appréciation est pointée du doigt. Le ministre de l'Intérieur estime que c'est sans doute là le premier dysfonctionnement dans cette affaire et qu'une enquête aurait dû être menée à l'époque.
Autre question, Guillaume. Le ministre de l'Intérieur parle de 2 missions lancées par le Premier ministre sur les agents de la lutte antiterroriste. Cela va consister en quoi ?
Ben justement, à faire toute la lumière sur la manière dont sont appliquées les procédures de détection interne de la radicalisation. D'abord, à la direction du renseignement de la préfecture de police, en premier lieu, pour comprendre comment cet agent a pu passer au travers. Là-dessus, Édouard Philippe veut des conclusions dans un mois. L'autre mission va concerner tous les services de renseignement pour vérifier comment ils signalent, ils traitent, ils suivent les agents au comportement suspect, car il y en a. D'après un récent rapport parlementaire, on compte en France une trentaine de policiers et de gendarmes potentiellement radicalisés, une trentaine sur 280 000 forces de l'ordre total. Ceux-là ont été détectés, signalés par leur hiérarchie et normalement, ils font l'objet d'un suivi particulier, ce qui n'était pas le cas du tueur de la préfecture de police.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe.
Et quant à, en réponse à ceux qui demandaient sa tête dans l'opposition, Christophe Castaner a bien affirmé à midi que la question de sa démission ne se posait pas. Pour aller plus loin encore dans cette réflexion, je reçois dans 10 minutes sur Europe 1 Jean-Paul Maigret, le secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires, lui-même en poste à la préfecture de police.
Il est 18h04, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wanny Bouchard.
Et les opposants à l'extension de la PMA s'étaient donné rendez-vous dans les rues de Paris ce dimanche. La question est de savoir quelle serait la mobilisation maintenant que la réforme de la procréation médicalement assistée a été votée par les députés il y a 10 jours.
Et pour cela, on rejoint Justin Morin qui a suivi le cortège qui est arrivé dans le quartier de la gare Montparnasse. Verdict Justin sur cette mobilisation?
Alors, verdict des organisateurs. Je précise, 600 000 personnes annoncées en grande pompe sur l'écran géant ici sur cette place du 18 juin 1940, acclamées par la foule, assez impressionnante, il faut le dire. Alors, on attend maintenant les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais il n'empêche, les drapeaux, liberté, fraternité, paternité continuent d'être brandis ce soir. Une ambiance stade de foot à laquelle ne s'attendaient pas forcément Brigitte et Eric, venus de Louviers et de Belfort.
On est très, très, très heureux qu'il y ait autant de monde. C'est vraiment une réussite prévue par personne.
On espère à 100% que ça va changer. Il faut que Macron il nous entende. S'il faut, on reviendra encore.
C'est le message. Le discours d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, diffusé sur les grands écrans, s'est fait siffler. On applaudit en revanche l'intérêt supérieur de l'enfant. Et Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, qui salue une réussite.
C'est un choix idéologique, un choix politique. Et en politique, rien n'est jamais joué d'avance, rien n'est inéluctable. Et nous devons, nous, peuple français, arriver à nous faire entendre. C'est une première manifestation, c'est un avertissement.
Les discours des organisateurs viennent de se terminer. Ici, les manifestants commencent à quitter la place, mais les plus motivés semblent vouloir profiter jusqu'au bout de cette mobilisation.
On rejoint Justin Morin dans le cortège des opposants à la PMA.
Une petite pause dans ce journal et nous parlons des hommes mariés ordonnés prêtres pour répondre au manque de vocation. Une des questions à l'agenda du synode sur l'Amazonie qui vient de s'ouvrir au Vatican. A tout de suite.
Europe 1, le grand journal du soir.
Wendy Bouchard. Europe 1.
Il est 18h09, le journal La Suite, avec vous Fabienne Lemoyle et Wendy Bouchard.
L'Église est-elle prête à remettre en cause le célibat des prêtres en ordonnant des hommes mariés? C'est une question qui est au cœur du synode sur l'Amazonie, un synode qui réunit les évêques du monde entier depuis aujourd'hui au Vatican.
Et ce serait une question, une réponse à la pénurie de vocation dans cette région, les explications de Virginie Riva.
Ordonner prêtres, des hommes d'âge mûr, mariés avec enfants, ce serait pour l'Église une révolution. Le pape a décidé de mettre cette question à l'ordre du jour du synode, c'est-à-dire la réunion des évêques du monde entier, un synode consacré à l'Amazonie, une région très vaste qui manque cruellement de prêtres et doit faire face à la concurrence des évangéliques. Si la règle changeait, elle ne changerait que pour cette région du monde. Mais ça ne serait pas sans soulever de questions ailleurs, comme l'explique Henri Tinck, spécialiste des religions et auteur de Vatican, la fin d'un monde au cerf.
Pourquoi, si on accepte ce tournant des prêtres mariés en Amazonie, pourquoi on ne l'accepterait pas, par exemple en France, où là aussi il y a des territoires très étendus, où il n'y a pas de prêtres, où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de pratique de la messe.
Déjà à Rome, les évêques ultra-conservateurs fourbissent leurs armes. Hors de question pour eux d'accepter un tel changement, même si pourtant le célibat des prêtres n'est pas un dogme, c'est une pratique tardive remontant au XIe siècle. Il y avait déjà des prêtres mariés dans l'église des premiers temps, et c'est le cas aussi aujourd'hui dans les églises chrétiennes orientales.
Virginie Riva.
On va terminer, Fabienne, ce journal avec une question qui personnellement me fait mal au ventre. Si la canicule nous privait de choucroute cet hiver?
Et oui, la récolte des choux n'a pas encore commencé en Alsace, mais Wendy, Charlotte Béchler l'a constaté, les agriculteurs s'inquiètent des conséquences de la sécheresse sur leur production.
Ce matin, Jean-Michel Hadès n'a rien à récolter. Il doit attendre que ses choux mûrissent. La chaleur de l'été les a empêchés de pousser. Une sécheresse fatale pour ce légume alsacien qui ne supporte pas les températures excessives.
Il est petit, ouais, il ne s'est pas développé, les feuilles n'ont pas grandi et puis il y a des allées encore entre. Il y a tellement peu de feuilles qu'on peut passer avec le vélo. Oui.
Florent, son fils, donne un coup de main à la ferme familiale et ça fait 3 étés qu'il voit la différence.
Normalement, les choux à cette période-là, ils devraient avoir 7-8 kilos, voire 9 kilos si c'est des très bons rendements, quoi. Après, là, cette année, on a des choux qui ont 6-7 kilos. Voire 5, et s'ils n'ont pas eu d'eau du tout, pas d'irrigation, ben c'est là, ils tournent autour de 3 kilos.
Et en dessous de 3 kilos, ces choux ne peuvent pas prétendre au label IGP. Alors pour Sébastien Muller, président de l'association pour la valorisation de la choucroute d'Alsace, il faut s'adapter à ces changements climatiques.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire des coûts supplémentaires, irrigation, et après on travaille aussi, par exemple, sur des essais variétaux. Donc on va essayer des variétés qui vont peut-être être plus résistantes à la chaleur. Ou alors peut-être d'adapter aussi nos périodes de plantation, de récolte, donc il y a vraiment une réflexion là-dessus par rapport à cette météo.
Depuis la nuit des temps, la plantation de choux se fait en avril et la récolte jusqu'à fin novembre, un calendrier qui sera peut-être modifié dans les années à venir. Krauter Gersheim, Charlotte Deschler, Europe 1.
Et puis Cocorico pour terminer, c'est un pur sang français qui a remporté le 98e prix de l'Arc de Triomphe aujourd'hui, Wild Jest, monté par Pierre-Charles Boudot.
Oui, pur sang français de 5 ans, c'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci Fabienne, à la semaine prochaine sur Europe 1.
Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1, il est 18h12.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Petit point météo, Valérie Darmon, avec ce lundi, peut-être journée d'accalmie entre deux perturbations, on peut dire ça comme ça, Valérie?
Absolument, avec encore dans le nord-ouest des nuages, de la pluie et un net renforcement du vent l'après-midi si vous êtes en Bretagne, en raison du passage d'une perturbation atlantique. De la Vendée à la Normandie, les éclaircies ne durent pas très longtemps et avant la fin d'après-midi, vous vous retrouverez sous la pluie. Dans l'est, vous avez quelques averses en matinée, le temps que la perturbation de ce dimanche s'évacue par l'Allemagne, et vous passerez l'après-midi au sec entre les Ardennes, l'Alsace et la Lorraine. Au nord de Rhône-Alpes, en remontant vers la Bourgogne et le Jura, il neige au-dessus de 1500 mètres. Et au sud de Lyon, vous connaissez davantage d'éclaircies. Dans le sud-ouest, attention aux nuages bas, aux brumes et aux brouillards du matin. Et en Méditerranée, attention au vent sous le soleil qui souffle jusqu'à 100 km/h en plaine du Roussillon et en basse vallée du Rhône jusqu'à Toulon.
Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure, 18h30 sur Europe 1. Dans ce grand journal du soir, Annie Bouchard, on va maintenant revenir sur les propos de Christophe Castaner chez nos confrères de TF1. C'était aujourd'hui à 13h.
Christophe Castaner qui reconnaît des dysfonctionnements dans le suivi de l'assaillant. Il le dit quelques heures après le drame. Cet individu n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte. Bonsoir Jean-Paul Maigret.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, monsieur le secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires, vous qui êtes vous-même en poste à la préfecture de police de Paris. Faille, dysfonctionnement, a dit le ministre, c'est déjà une certitude pour vous aussi?
Vu le bilan, le triste bilan et l'aspect absolument dramatique de ce qui s'est passé jeudi, c'est à minima les mots qu'il faut choisir.
Faute et erreur d'appréciation, a-t-il pu ajouter, qui seront à sanctionner. Peut-on adjoindre encore le mot de pression, ce qui signale un certain nombre d'agents de la DRPP qui ont été témoins de la radicalisation de cet individu, qui en ont parlé, Guillaume Biel le rappelait, oralement, verbalement, mais qui n'auraient pas souhaité consigner cela par écrit. Ça aussi, c'est grave?
Alors, aujourd'hui, on considère que c'est grave. La problématique, c'est que c'est les faits qui sont relativement anciens, qui remontent à 2015. On a une enquête qui se déclenche, qui est maintenant une enquête judiciaire, qui va être doublée d'une enquête administrative, qui va permettre de déterminer si ces faits ont été renouvelés depuis 2015, s'il était de pratique courante de réfléchir beaucoup avant d'écrire sur des faits similaires, et puis d'interroger ceux qui n'ont pas écrit pour savoir sur quel motif ils n'ont pas écrit, si on leur a conseillé de ne pas le faire, s'ils ont choisi de ne pas... avoir une ambiance délétère au quotidien dans leur service.
Oui.
Il faut quand même appeler les choses comme elles sont. Quand on dénonce quelqu'un, avant que cette personne soit éventuellement auditionnée et déplacée dans un autre service, vous imaginez que l'ambiance n'est pas vraiment terrible. Donc, faut savoir un petit peu pourquoi, à un moment donné, tout le monde s'est ravisé. Et puis, qu'on réfléchisse également sur le fait que on n'est pas fait de recherche supplémentaire et qu'on n'ait pas déclenché une procédure sur la radicalisation, même sans ces écrits. Parce que dans d'autres domaines, quand on a des signalements, Je pense à ce qu'on fait aujourd'hui et qui est communément admis pour les services de police et de gendarmerie en matière de suspicion de violences faites aux enfants, de violences faites aux femmes.
Oui.
On n'a pas besoin d'avoir une plainte, on n'a pas besoin d'avoir une main courante signée. On considère qu'à partir du moment où on a les éléments qui nous ont été donnés verbalement, on ne peut pas faire comme si on n'avait rien entendu.
Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'autosaisine sur ce type de données si sensibles, on peut considérer aussi que c'est une sorte de dysfonctionnement.
Alors un dysfonctionnement, je vais pas jouer sur les mots, mais en tout cas, il va falloir regarder si c'était une pratique habituelle ou s'il y a eu des éléments objectifs qui ont permis de considérer qu'il ne fallait pas faire une enquête plus approfondie pour la radicalisation. Après, il y a peut-être un certain nombre de faits qui ont rassuré un certain nombre de gens spécialisés en ce domaine, mais en tout cas, globalement, au sein du ministère de l'Intérieur, on n'est pas encore au niveau parce qu'on avait considéré que cette menace existait, mais qu'elle n'était pas si aiguë.
Jean-Paul Maigret, la reconduction d'une habilitation secret défense signifie que l'État, quelque part, se porte garant de cet agent auprès de l'institution policière, auprès de la collectivité. Ça engage donc une responsabilité, des comptes à rendre aujourd'hui. Qui sera, qui pourrait être désigné responsable et coupable de ces faits, demain ou après-demain ?
Alors, je ne vais pas utiliser les termes de coupable. Je vais déjà laisser le temps à mes collègues qui enquêtent de regarder quel est l'état du dossier d'habilitation. Parce qu'on a tout un tas de détails dans une habilitation secret défense. Ça peut être une habilitation secret défense pour certaines activités, pas dans d'autres, sachant évidemment que plus on monte sur des niveaux sensibles de contre-espionnage, de lutte contre le terrorisme, on est dans des niveaux élevés à l'intérieur de l'habilitation, et voir un petit peu comment ça se passe.
Oui, mais et qui avait intérêt à reconduire cette habilitation ?
Et on a une vraie bureaucratie derrière tout ça. À titre personnel, comme beaucoup d'autres, j'ai été amené à renouveler des habilitations et c'est très bureaucratique, c'est très lent. Donc on se demande aussi si, au regard de l'ampleur de la tâche en la matière, on a suffisamment de gens. Et puis on est sur des tâches qui sont extrêmement complexes. Vos confrères ont évoqué des recherches extrêmement poussées où on va interroger des voisins, on va interroger d'anciens liens amicaux et autres. Tout ça, c'est dorénavant beaucoup de la théorie. Mmh. On le fait de moins en moins. D'autant plus que quand on est dans un renouvellement, il y a un petit aspect routinier. Là aussi, il faudra peut-être regarder ce qui se passe selon les institutions, voir par exemple que ce qui se passe à la Direction générale de la Sécurité intérieure, où il y a toute une direction très importante à l'inspection générale qui se charge de ça, on a peut-être des pratiques qui sont différentes de celles qui se passaient à la DRPP, je ne sais pas, j'ai pas de certitude, mais ça se dit, pour essayer de s'améliorer. Encore une fois, il y a au minimum eu des erreurs ou des comportements un peu trop faciles qui ont été faits puisqu'on a ce drame. Il faut se servir de ces erreurs pour progresser.
Et manifestement, une ambiance très compliquée aussi en interne à la DRPP aujourd'hui. À la même heure, hier soir, je recevais Noam Anouar, ancien de la DRPP, qui nous faisait état de ces critiques cinglantes au cœur de l'institution, des agents qui disent aujourd'hui « ça fait des années qu'on appelle à un changement d'organisation et voilà le résultat ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous dites vous aussi, Jean-Paul Maigret ?
Moi, ce que je vais répondre, c'est que déjà, face à un drame comme ça, rien que le traumatisme va rendre les choses compliquées, pas seulement demain, après-demain, où c'est le temps où on pleure nos morts, mais évidemment, il va y avoir des sujets. Après, tout ne peut pas être polémique, tout doit être posé tranquillement, sans personnaliser un certain nombre d'enjeux. Mais derrière,
sans demander la démission, par exemple, de votre ministre de tutelle aujourd'hui, c'est pas le problème pour vous ?
Parce qu'encore une fois, ceux qui demandent des démissions sont dans un registre qui n'est pas le mien. Moi, je fais pas de politique. Mmh. Je suis là pour expliquer une organisation et faire en sorte que d'un échec aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose qui va nous permettre de détecter et d'être plus efficace demain. En ce moment, on est en train, dans un certain nombre de directions, à la préfecture de police également, de relancer un certain nombre de mécanismes de détection de la radicalisation. Eh bien, on va se dire que déjà, au moins, ça va servir à ça.
Merci. Merci Jean-Paul Maigret, secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires, d'avoir fait encore la lumière ce soir sur ce drame que vous traversez tous. Merci.
Merci.
Le Grand Journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec, dans un instant, Wendy, le sport.
Et oui, et le rugby, le foot au programme, l'athlétisme également. Julien Froment nous rejoint.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Europe 1. Il est 18h23, Wendy Bouchard, l'heure du journal des sports sur Europe 1.
Toute l'actualité sportive, Julien Froment, bonsoir.
Bonsoir.
Avec au menu du rugby, du foot et de l'athlétisme.
Oui, le 15 de France qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde sans la manière. Football, la 8e journée de Ligue 1, derby du Rhône en guise de baptême pour Claude Puel. Enfin, athlétisme, les mondiaux à Doha et les comptes ne sont pas bons pour le club français.
On commence donc par le rugby. Le 15 de France qui valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Japon. Mais pour la manière, cela dit, il faudra repasser.
Oui, victoire à nouveau poussive ce matin contre les Tonga, 23-21. C'est un peu la mauvaise habitude prise par les Bleus pendant ce tournoi. Un début de match en ballon et puis une panne de courant en seconde période. Le beau jeu attendra pour le sélectionneur Jacques Brunel qui lui veut retenir que la qualification.
C'était notre premier objectif. Il n'était pas facile. On était dans une poule, je ne vais pas vous le raconter, vous le savez, compliqué. On avait des étapes à passer, on les a passées avec quelquefois des difficultés, mais on les a passées. Donc aujourd'hui, c'en était une différente, avec difficulté, on l'a passée. Et donc aujourd'hui, c'est quand même la première chose, c'est la qualification qui nous satisfait pleinement.
Voilà Jacques Brunel, on l'a passé, c'est l'essentiel. Le sélectionneur des Bleus avec Simon Rubin place désormais samedi prochain au Crunch, France-Angleterre. Et puis, dans l'autre rencontre de la journée, la Nouvelle-Zélande a été menée pendant 4 minutes par la Namibie, mais les All Blacks ont fini très fort, victoire 71-9.
Malgré le mondial, Julien, le top 14 se poursuit avec deux matchs ce dimanche pour le compte de la 6e journée. Le Racing 92, facile vainqueur de la sélection paloise chez elle, 31-3.
Oui, et Toulon qui ressort en ce moment à La Rochelle, ça se passe plutôt bien pour Toulon puisqu'il y a 16-3 pour les Toulonnais après 67 minutes de jeu.
On passe au foot, 8e journée de Ligue 1 et lendemain de Coupe d'Europe difficile pour Lille.
Oui, les Dogs battus par Chelsea mercredi dernier ont été tenus en échec à domicile par Nîmes. 2-2. Le coach Christophe Galtier d'ailleurs assez chagriné par ce résultat.
En étant très honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit pas à notre niveau aujourd'hui. Peut-être qu'il y a de la fatigue, il y a aussi la charge émotionnelle des matchs que l'on joue. Je ne dis pas qu'il faut apprécier ce point parce que c'est une contre-performance, mais que voilà, à 10 minutes de la fin, on n'en avait pas, là on en a un, comme ça.
Christophe Galtier avec Sébastien Boué. Puis dans le match en cours, c'est Rennes qui reçoit Reims. Et pour le moment, Reims mène 1-0 après 63 minutes de jeu.
Ça va être bouillonnant ce soir au stade Geoffroy Guichard. 21h, c'est le derby du Rhône, Saint-Étienne-Lyon.
Oui, dans un contexte assez compliqué pour les Verts. Bon dernier de Ligue 1. Vendredi, l'entraîneur Ghislain Printemps a été écarté. C'est Claude Puel qui a été nommé à sa place. Puel qui a été à la tête de l'Olympique Lyonnais. L'aventure est malheureusement tournée au vinaigre. C'est même terminé devant les prud'hommes. Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a d'ailleurs la rancune tenace. J'espère qu'ils n'ont pas fait Puel pour nous battre, parce qu'ils vont être déçus. Écoutez la réponse du nouveau coach des Verts, justement, Claude Puel.
Ouais, il a raison. Ouais. Bah ouais, c'est pas la baguette magique. Hein. Bien sûr, j'ai pas de recul. Je connais pas bien tous mes joueurs. Ils ont un jour de plus de récupération dans ces enchaînements de matchs, ce qui est énorme. Et c'est très costaud comme challenge, parce que ils ont deux équipes sans problème qui font tourner. Je dirais le seul avantage, c'est un derby. Et un derby, on oublie la fatigue. Mais enfin, bon, si on remporte le derby, ça sera sympa.
Claude Puel avec Anthony Perel, le derby 21h ce soir à suivre avec vous. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Match à partir de 21h, 119e derby qui sera chaud et pas seulement sur le terrain. Donc,
absolument,
hein.
Comme l'expliquait Julien, il y a une véritable tension entre l'Olympique Lyonnais et Claude Puel qui débarque à Saint-Étienne sans avoir du recul puisqu'il ne connaît pas vraiment ses joueurs. Ce n'est pas un homme d'opération commando, il travaille plus sur le long terme. Alors, va-t-il créer l'électrochoc ce soir? C'est la question qu'on posera dans de grands débats aux experts. Est-il capable de faire gagner Saint-Étienne qui est en bas de classement face à une équipe de l'OL qui a bien réussi, qui a bien redressé la tête en Ligue des Champions? C'est toute la question. Lyon semble supérieur, mais Claude Puel est capable de sortir une belle surprise de son chapeau.
Affaire à suivre avec vos experts ce soir dans Europe 1 Sport dès 20h, Lionel Rousseau. L'athlétisme pour finir avec les championnats du monde à Doha.
Oui, et le bilan gare reluisant pour les Bleus. Deux médailles, une en argent et une autre en bronze. Deux breloques qui ne pèsent pas bien lourd. Des stars françaises au crépuscule de leur carrière comme Renaud Lavillenie ou encore Christophe Lemaître. De la malchance avec la blessure de Kevin Mayer et des jeunes pas encore prêts. Bref, pas de quoi rassurer notre consultant Jean-Claude Perrin.
Notre marge de manœuvre est faible. Notre réservoir est excessivement réduit. Donc on a de grandes difficultés à avoir, non pas des champions, mais des garçons performants. Les garçons ou les filles qui sont présentes et qui ne sont pas encore des champions, ont eu du mal à répéter leur performance. Ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Et je ne crois pas du tout aux théories de la fédération qui disent qu'il faut emmener des jeunes parce que ça leur permet de... Le mot qui revient tout le temps, c'est s'aguerrir. Mais non, pas du tout. Celui qui a 18 ans, qui est prêt, eh bien, il peut être champion olympique.
Voilà, ou champion du monde d'ailleurs. C'était Jean-Claude Perrin, consultant athlétisme pour Europe 1.
Merci Julien. Fromont à tout à l'heure 19h pour le rappel de l'actu sportive.
Et dans un instant, Wendy, on va refaire un petit point sur l'info de ce dimanche. Les prévisions météo de Valérie Darmon et puis on va en entendre parler. C'est notre rendez-vous du dimanche.
Ça commence demain, le débat sur l'immigration. Je reçois Pierre Henry, directeur général de l'association France Terre d'Asile.
18h-20h, Wendy Bouchard.
18h31, bienvenue dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite, c'est avec vous, Wendy Bouchard.
Et l'essentiel de l'info, d'abord avec vous. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Christophe Castaner, droit dans ses bottes. Le ministre de l'Intérieur exclu de démissionner. Est mis en cause après l'attaque jeudi à la préfecture de Paris. Il reconnaît des failles, mais répète qu'aucun signe de radicalisation n'apparaissait dans le dossier administratif de l'assaillant. Liberté, égalité, paternité, c'est sous ces mots que les anti-PMA pour tout ont défilé cet après-midi à Paris. Ils étaient 74 500 selon le comptage du cabinet Occurrence à réclamer le retrait de cette mesure portée par le gouvernement, loin des 600 000 annoncés par les organisateurs. Une agression homophobe à Lyon, trois jeunes hommes qui sortaient d'une discothèque la nuit dernière ont été roués de coups par trois individus. Les agresseurs ont ensuite réussi à prendre la fuite. Une opération de déminage réussie à Boulogne-sur-Mer, une bombe américaine de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée avec succès cet après-midi. 25 000 personnes ont dû être confinées.
Merci Sophie Tussaud. Voici un petit point météo. On débute la semaine avec des températures en baisse, Valérie Darmon.
Tout à fait. Et ce lundi matin, elles sont plus basses que ce dimanche, comprises entre 6 et 10 degrés. Près de l'Atlantique, sur Midi-Pyrénées, près de la Méditerranée, entre 11 et 15 degrés. Et dans l'après-midi, les maximales seront contrastées. 11 à 15 du nord de la Seine à la Bretagne et au Grand Est, jusqu'en Val-de-Saône. 16 à 20 au sud de la Garonne et 21 à 25 dans le sud-est, près de la Méditerranée. Côté ciel, on connaît une perturbation qui se termine, qui s'évacue par l'Allemagne et par l'Italie, tandis qu'une autre va revenir par les îles britanniques. Et entre ces deux dégradations, vous connaissez un temps assez calme mais très nuageux sur la partie nord et très beau sur la partie sud.
Merci Valérie Darmon. On va en entendre parler. L'actualité parfois se programme, Wendy Bouchard.
Avec vous, bonsoir Naïma Bencheman.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Ça commence demain, après avoir été repoussé, il arrive enfin.
Le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale et des chiffres. Pour la droite, 400 000 étrangers seraient arrivés en France l'an dernier. Des chiffres que l'opposition veut diviser par 4 quand Emmanuel Macron, lui, veut un discours de vérité.
Nous vivons depuis plusieurs années avec un accroissement des migrations. On a eu les grandes migrations liées à la crise syrienne en 2015. On a aujourd'hui de plus en plus de migrations qui viennent d'Afrique. Et nous allons de plus en plus vivre avec les migrations. Et donc, face à cela, nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien.
Mardi, Naïma, on va connaître d'autres chiffres, ceux sur le mal-logement.
Ils seront révélés par la Fondation l'Abbé Pierre. Wendy, la crise du mal-logement est un problème de société qui ne fait que s'aggraver, notamment en Île-de-France, qui compte à elle seule 200 000 personnes sans logement.
Mercredi, Naïma, allons au cinéma.
Pour le documentaire « Tout est possible » et un narrateur, Cyril Dion, qui a l'écologie dans le sang, on le connaît pour avoir co-réalisé « Demain » avec l'actrice Mélanie Laurent. Cette fois, la preuve que demain, tout est possible grâce à la ferme du futur, respectueuse de l'environnement.
Tournée sur plus de 10 ans, découvrez notre aventure, celle de la ferme rêvée, du désert à la vie. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir. Les coups durs nous ont finalement permis de réaliser notre rêve.
Jeudi, une date importante dans la lutte contre les épidémies.
Emmanuel Macron sera à Lyon pour la 6e conférence du Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose. 2,5 millions de personnes meurent chaque année en raison de ces maladies et depuis sa création en 2002, c'est la première fois que cette conférence se tient en France.
Vendredi, un peu de musique. Avec du rêve surtout pour le prix Nobel de la paix qui sera attribué.
À Stockholm, comme chaque année, les spéculations sur le lauréat ou la lauréate vont bon train. Le nom de Greta Thunberg est sur toutes les lèvres, mais d'aucuns, comme Jean-Louis Borloo, ont d'autres espérances.
Mon rêve, c'est que la France propose au comité Nobel que la Fondation Chirac pour la paix et la culture, soit proposée comme Nobel de la paix.
Vendredi, toujours, Naïma, la sortie de Citadelle, le quatrième album d'Isia Higelin.
Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite.
Et le premier depuis le décès de son papa, Jacques Higelin, disparu en 2018. Un album riche en émotions, La naissance, le deuil, la résilience, une palette de sentiments qu'elle a vécu ces derniers mois et qu'elle aborde dans Citadelle.
Naïma Benchemann, merci. On va en entendre parler sur Europe 1. C'est aussi dès demain à l'Assemblée nationale, nous vous le disions, le débat sur l'immigration. L'opposition de droite qui prépare ses arguments et qui tacle une inaction suicidaire. Les mots sont ceux d'Éric Ciotti quand Emmanuel Macron promet, lui, de parler sans tabou de ce sujet. Bonsoir Pierre-Henri.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'association France Terre d'Asile. Quelle vertu a pour vous ce type de débat sur l'immigration qui, je le rappelle, ne sera sanctionné d'aucun vote ?
Eh bien, c'est très difficile à vous répondre, parce que depuis un mois, on a le droit au bruit, à la fureur, au buzz, à des propositions aussi farfelues qu'extrêmes, et je ne suis pas sûr que cela renseigne véritablement le pays sur un sujet qui est très complexe et qui mérite pourtant un débat apaisé.
Le but et l'objet, dit le Premier ministre aujourd'hui, c'est de définir une stratégie en matière d'immigration. Ce qui sous-entend que celle que nous avons aujourd'hui n'est pas la bonne ?
Écoutez, nous avons une particularité dans ce pays, c'est d'empiler les lois. Depuis 1981, il y a eu 16 lois, une tous les 26 mois, avec une particularité, c'est qu'on n'évalue pas les effets de la loi précédente avant d'en faire une nouvelle. Je vous rappelle que la dernière loi, elle date d'à peine un an.
Oui, oui, oui.
Et donc, si on veut établir une stratégie, on ne peut pas le faire seul. L'État ne peut pas le faire seul. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres associations, Emmaüs, la Fédération des associations de solidarité, le SAMU social, l'Armée du Salut, j'ai appelé à une conférence de consensus sur ce sujet. D'abord pour mettre à distance un certain nombre d'approximations, de fake news, et puis pour avoir un constat partagé et établir des propositions en commun. Si nous ne faisons pas cela, nous continuerons en réalité à diviser la population. Vous savez, ce qui, sur la problématique de l'immigration, continue à alimenter le robinet de l'extrême droite, ce sont ces campements de rue que l'on voit dans la plupart des grandes villes.
Preuve que l'intégration échoue ou que nous n'avons peut-être pas assez de moyens à disposition ?
Non, je crois que nous n'avons pas la volonté politique de faire autrement. Je vous rappelle que l'Allemagne, au plus fort de la crise migratoire, a accueilli 1 500 000 personnes. Et nous, avec 120 000 personnes, nous n'aurions pas le génie de nos voisins allemands pour faire en sorte que personne ne reste à la rue. Je ne le pense pas.
Puisque vous parlez de chiffres, Pierre-Henri, pardonnez-moi de vous couper, je dois quand même énoncer ceux qui seront avancés dès demain dans l'hémicycle, notamment par Éric Ciotti, pour le compte des Républicains. Il parle de 400 000 étrangers entrés en situation légale, plusieurs dizaines de milliers de clandestins non comptabilisés. On ne peut pas réduire l'humain à des chiffres, mais les chiffres nous permettent parfois de dessiner des politiques plus humaines. Pierre-Henri, vous le savez bien. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on
Écoutez,
en fait ?
Je ne sais pas où M. Ciotti est allé les chercher. Il y a 250 000 personnes qui sont rentrées de façon régulière sur le territoire l'année dernière. Il y a 90 000 étudiants. Tout le monde s'accorde pour dire qu'on a besoin d'étudiants internationaux.
Oui.
Et cela, de toutes parts.
On ajoute les 120 000 demandeurs d'asile.
Les demandeurs d'asile ne rentrent pas dans ce calcul.
Dans cette
statistique. Et vous avez aussi, à l'époque de la mondialisation, le fait qu'un certain nombre de nos compatriotes tombent amoureux ou amoureuses de citoyens non européens et puis en plus veulent les épouser. Ça représente 50 000 personnes. Vous avez le regroupement familial, ça représente 15 000 personnes, c'est-à-dire la possibilité pour des étrangers en situation régulière de faire venir leur famille. Et puis, vous avez des personnes en situation irrégulière. C'est vrai. Et depuis des dizaines d'années.
Et de plus en
le
plus
dernier, Non, le dernier rapport connu sur ce sujet, celui du Sénat, et il établit entre 200 et 400 000 personnes en situation irrégulière sur le territoire. En fait, en fonction de ce que vous avez envie de dire, évidemment, vous prenez la fourchette haute de l'estimation, c'est ce que fait M. Ciotti quand il parle de 400 000 personnes, mais ça ne règle pas la question. Nous avons sur le territoire un certain nombre de personnes qui, de toute façon, ne repartiront pas, parce que ce sont des familles monoparentales, je ne vois pas un pouvoir qui, demain, va aller chercher des mères de famille par le col et les remettre dans un avion. Alors, il faut avoir le courage de poser des diagnostics et de trouver des solutions commune.
Les associations que vous représentez ne seront pas entendues, en tout cas dans les circonstances de ce débat parlementaire, et vous le déplorez, Pierre-Henri, pour Terre d'Asile. Mesures radicales avancées encore par la droite, mais sont-elles nécessaires? Expulser systématiquement les étrangers délinquants, vous dites, c'est une possibilité?
Mais écoutez, il me semble qu'il y a des lois, il faut respecter ces lois. Ensuite, est-ce que une infraction mérite expulsion du territoire? Eh bien, c'est au juge de le dire.
Vous me dites la même chose si je vous parle des détenus étrangers qui représenteraient près de 23% de la population carcérale.
Mais tout dépend ce qu'ils ont fait. Et s'ils sont, par exemple, dans un phénomène de radicalisation, évidemment, ils n'ont pas grand-chose à faire sur notre territoire.
Tout ça sera peut-être dit demain à l'Assemblée. Oui. La vertu, au moins, c'est qu'on dépassionne peut-être le débat.
C'est un débat sans vote. Et ce que j'observe, c'est que la préparation du débat, depuis un mois, n'a pas permis d'avancer véritablement. Et donc, quelle stratégie véritable veut le gouvernement sur cette question? S'il veut apaiser, s'il veut lutter contre l'extrême droite, alors ça ne se fait pas tout seul. Et je lui lance un appel qui est celui, tout simplement, de se mettre autour de la table avec les collectivités locales, les associations, tous les acteurs de cette question. Le pays en a besoin. Le pays a besoin d'apaisement sur cette question. Et donc, il faut y travailler.
Appel que nous avons entendu et que vous relayez ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile.
Et vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard jusqu'à 20h. À suivre, tout roule. On ferait bien un petit tour de voiture avec Pierre de Villeneuve.
En Ferrari, en l'occurrence avec Pierre, et une chanson dans la tête. Elles sont enracinées, celles de Charles Aznavour. Un an après sa disparition, Fabien Lecoeuvre nous rejoint. A tout de suite.
Il est 18h44, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, présenté chaque dimanche soir par Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et voici les titres à la une.
De la grisaille et de la gribouille sur le bonus malus 2020. Deux grilles tarifaires qui déstabilisent les clients mais aussi les concessionnaires. Une bonne pioche pour The Plug, start-up française qui signe avec Jaguar. Et l'essai de la semaine, 600 chevaux sous un capot rouge avec un cheval cabré dessus.
Voici d'abord ces nouvelles règles concernant le bonus-malus, Pierre.
Oui, alors déjà le bonus-malus, c'est pas simple, mais là, ça va vraiment décourager les futurs acquéreurs puisque le seuil, tenez-vous bien, passe au 1er janvier de 117 grammes à 110. Ça, c'est les normes actuelles, les normes, ce qu'on appelle NEDC.
D'émissions de CO2.
Exactement. Mmh. Et à partir de juin 2020, théoriquement, arrivent de nouvelles normes qu'on appelle WLTP parce qu'elles prennent en compte plus de critères de la vie de la voiture, etc. Mmh. Et là, on n'est plus à 110 grammes de CO2, on repasse dans l'autre sens à 138 grammes. Donc c'est à n'y rien comprendre à la fois pour les automobilistes et pour les concessionnaires. Christophe Morel dirige un grand groupe de distribution et représente la branche concessionnaire au CNPA.
Le malus payé par le client s'applique au jour de l'immatriculation du véhicule. Or, entre la date de prise de commande et la date d'immatriculation, plusieurs mois peuvent s'écouler, pendant lesquels la grille de malus aura alors évolué. L'acheteur est alors contraint de s'acquitter d'un taux de malus supérieur. Il est aussi très difficile de structurer des offres commerciales et d'accompagner le client dans ces conditions pour les réseaux de distribution et les constructeurs automobiles. Enfin, le bonus actuel est trop restrictif. L'État aurait dû élargir le bonus aux véhicules hybrides rechargeables.
Alors, si je veux acheter une voiture qui rentre dans les clous, qu'est-ce que j'achète ?
Ben, un diesel. Et c'est là le paradoxe, puisque les taux de CO2 sont les plus bas sur les véhicules diesel. Et on n'a toujours pas de mesures qui sont prises en compte pour les NOx et les particules fines.
Mais hein. Voici les news de la semaine à présent, Pierre de Villeneuve.
Jaguar Land Rover choisit The Plug pour, avec un Z pour ses bornes de recharge électrique en France. Bonne pioche pour la start-up française associée à un nom prestigieux de l'automobile. Inquiétude car chômage partiel à l'usine Opel à Rüsselsheim en Allemagne. 2600 employés dans l'incertitude. Idem chez Peugeot à Sochaux, autre marque de PSA où un millier d'intérimaires sont menacés par la délocalisation de la nouvelle 2008 en Espagne.
Un peu d'Italie en ce dimanche soir, ça fait du bien, Pierre. Vous qui vous êtes Dolce Vita ambiance, baladé en Ferrari.
Ben oui, c'est un peu quoi plus rapide. Quoi qu'on nous dise sur les vertus des voitures électriques, le bruit que vous allez entendre quand on aime ça, c'est l'adrénaline assurée pour toute la journée.
Porto
Portofino qui remplace la California. Alors elle est plus accessible si j'ose dire, mais vraiment la plus polyvalente des Ferrari. C'est un moteur Ferrari V8 3.9 biturbo 600 chevaux à 7500 tours, 0 à 100 en 3 secondes et demie. Ça swing, ça danse, ça pousse très fort. Et on emmène les enfants, figurez-vous. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop grands, hein, les miens ça va. En week-end, mais oui, parce qu'on part quasiment avec un coffre de golf. On est à 340 litres.
Et vous mettez les enfants dans le coffre.
Ben non. Vous peut-être, hein, mais moi non. En plus de tout ça, elle est décapotable. Alors ça, avec les derniers rayons de soleil, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a un toit rigide rétractable, c'est-à-dire que c'est vraiment du métal, hein, comme sur les 207cc ou les SLK.
Oui.
Voilà, c'est une voiture très belle, très jolie, effectivement inaccessible pour beaucoup de monde, mais c'est un jouet.
C'est-à-dire,
et c'est encore une voiture,
prix.
200 000 euros, mais c'est une voiture encore faite à la main par les ouvriers de Maranello. C'est
ouais.
Dans un monde où les voitures sont toutes fabriquées sur le même châssis, avec on emboîte, on fait des Lego avec les voitures maintenant. Là, c'est vraiment encore une pensée unique avec une voiture faite à la main. C'est encore un objet d'art.
Que la vita est belle. Hein
si.
À domani. Pierre de Villeneuve pour le journal de midi et tout roule la semaine prochaine.
Bonne fin de journée sur la route des retours de week-end, à l'écoute d'Europe 1 bien évidemment, et à suivre Wendy Bouchard, une chanson dans la tête.
Et oh, nous n'en avons plus qu'une avec celui qu'on honore ce soir. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Un génie en somme.
Un vrai génie du siècle dernier et de ce siècle-là.
Monsieur Charles Aznavour, à tout de suite.
Europe 1.
18h50, c'est l'heure de notre rendez-vous musical de ce grand journal du soir, une chanson dans la tête avec un spécialiste de la chanson française, Wendy Bouchard.
Que vous retrouvez avec plaisir chaque samedi, chaque dimanche, Fabien Lecoeuvre, et merci de célébrer à la radio comme à la télé d'ailleurs, parce que jeudi soir sur C8, vous avez rendu hommage à Charles Aznavour.
Absolument.
Avec Cyril Hanouna.
Cyril Hanouna, on a co-présenté l'émission, Monsieur Aznavour sur C8 qui a fait des records absolus d'audience.
Voilà, preuve qu'il touche vraiment toutes les générations.
Oui, oui, absolument, c'est-à-dire aussi bien l'ancienne génération qui ont acheté ses premiers disques à la fin des années 50, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, les rappeurs qui samplent régulièrement, souvent, Charles Aznavour.
On commence en musique, évidemment.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des bleus.
On voulait commencer avec ce duo virtuel, et qui réunit deux monstres sacrés, parce que Charles Aznavour et Edith Piaf, c'était une histoire.
C'est une vraie belle histoire, et qui avait commencé, on va dire, à la fin de l'année 1947. À l'époque, Aznavour chantait en duo avec un jeune garçon qui s'appelait Roche, tout simplement. Et puis, Piaf avait repéré le jeune Charles Aznavour. Elle l'a emmené en tournée, et puis finalement, Roche est resté à Montréal, et Aznavour est rentré à Paris avec Piaf. Et il a été engagé tout de suite, parce que ça marchait pas vraiment en tant qu'artiste, il a été engagé comme homme à tout faire, secrétaire, chauffeur, confident.
D'accord,
voilà.
Ouais.
Et puis surtout, il lui faisait aussi des chansons. Il lui a fait Plus bleu que le bleu de tes yeux, 1951. Et puis surtout, c'est Piaf qui lui a payé l'opération du nez, la fameuse rhinoplastie, en 1950, à New York, ça se faisait aux États-Unis.
Qui n'est pas anecdotique, parce que son physique lui posait souci.
Ah ben, il avait un physique très ingrat, il le disait lui-même d'ailleurs, au début de sa carrière. Donc, il faisait 1m61, maigrelet, et puis avec un nez un peu comme une patate, disait Edith Piaf. Et donc, Edith Piaf lui a payé l'opération.
Des hauts, des bas, un début de carrière aiguisé. Oula. Il se souvient dans cette chanson. Écoutez.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours.
Elle est importante, cette chanson.
Ah, la chanson fétiche, la chanson porte-bonheur de Charles Aznavour, mais qui lui a valu quand même des gros ennuis et un très mauvais papier dans un article, un journal qui s'appelait Combat, un journaliste qui s'appelait Maurice Sientard, qui avait écrit le 17 juin 1955, à l'issue de son premier concert à l'Olympia en vedette, et qui triomphal, justement, avec cette chanson sur ma vie. Il avait dit, écoutez bien, à propos d'Aznavour, son manque de voix évident, l'enroué de son timbre n'est pas compensé par sa beauté, et Aznavour devrait faire du mime corporel, je croyais entendre le sosie arménien de Gilbert Bécaud. Gilbert
Bécaud
qui était une star
celui-là.
En 55.
Oui.
Il a été très visionnaire, et surtout Aznavour, moi il m'avait dit, j'ai gardé ce papier de cet article dans Combat
comme
pendant pratiquement 2 ans.
Oui.
Épinglé au mur de ma chambre.
Voilà, c'est un destin. Il a traversé justement tous les obstacles. Ça l'a finalement fait avancer beaucoup plus qu'on ne pensait.
Oui, et puis sa devise, c'était réussir, c'est insister.
Oui,
et il a eu raison.
93 ans, il chantait encore avec un swing dans la peau,
ouais.
Et un franglais impeccable, lui qui chantait d'ailleurs en plusieurs langues.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
You are my love, very, very, very véritable.
Alors ça, c'est sa chanson
mythique.
Ah, c'est une chanson qui lui a ouvert l'international. Ah, alors lui, il avait dans la tête en 1935, Aznavour avait 11 ans en 35. C'était une chanteuse qui s'appelait Hildegarde aux États-Unis et qui chantait « Darling, je vous aime ». C'est-à-dire qu'il avait fait déjà de l'anglais et du français. Et lui, pour lui, il avait besoin, en 1963, il avait signé le 30 mars 1963 à New York, le fameux Carnegie Hall, et il lui fallait une chanson pour plaire à la fois aux Anglais et aux Français.
Tous les grands ont fait ça, hein, Gainsbourg, Renaud.
Bien sûr. Oui. Et donc, il s'est inspiré de cette chanson « Darling, je vous aime » de 1935. Il a écrit « Formi, formidable ». Et on connaît la suite, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires.
Charles Aznavour, c'est une écriture comme des poèmes, avec des scènes de vie et des expressions quasiment entrées dans le langage courant. Ah, tu te laisses aller.
Je suis ton sale caractère, sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler. Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Ça a plu aux ménagères.
Voilà, cette chanson a fait couler beaucoup d'encre en 1960. Alors, succès, bien sûr, incroyable. Mais toutes les ménagères se reconnaissaient.
C'est du théâtre, hein, c'est du théâtre.
Non, mais c'est une scène de vie, de film. Ouais. Et lui qui avait été marié, quand même, il faut le rappeler, 3 fois et 5 enfants.
Oui.
Donc il y a eu Micheline, il y a eu Arlette, il y a eu Evelyne, il y a eu Ulla, sa dernière et belle épouse. Et donc il avait un peu d'expérience dans ce domaine et puis tous ses copains divorçaient. Donc il a écrit, mais ça lui a valu beaucoup d'ennuis, cette chanson.
Vous nous présentez ici, Fabien Lecoeuvre, les chansons préférées des Français. Mm-hmm. Dans le top 5, on trouve cette ode à la mama.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là.
Chanson qui l'a propulsé encore.
Oui, importante en fait. C'est en 1964 qu'il écrit le texte de. Alors non, la musique de cette chanson,
le texte est
écrit par Robert Gall, qui est le papa de France Gall. C'est pour ça quand il citait France Gall et il me l'avait bien dit, France Gall, c'est la fille du papa de la maman. Donc c'était un peu le gag. Et parce que le père Robert Gall, donc le papa de France Gall, avait été élevé par sa maman à l'issue de la guerre 14-18, où le père avait été victime, en tout cas était mort au champ d'honneur, et donc elle avait une difficulté, et quand la maman est partie, ça a été un chagrin épouvantable évidemment pour le papa de France Gall. Voilà, donc ça a été, donc ce texte est très important dans la vie de, et tous les latins, et Aznavour, quand il a fait la musique sur le texte de Robert Gall, il a fait ses fameuses Ave Maria.
On est obligé d'entendre la chanson du départ et des débuts, envers et contre tous. Je me voyais déjà
en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé.
Et puis cette chanson superbe, pour le coup, la chanson préférée d'Aznavour par les Français.
Oui.
Emmenez-moi, qu'on entendait en préambule de cette émission.
Ah ouais, immense, immense tube de 1967. Évidemment.
Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au sol.
Cette phrase est magnifique.
Et c'est cette phrase, cette fameuse phrase qui a été inspirée par un journal télévisé en 1967 quand il a vu toute une famille d'un peuple africain merveilleux qui était finalement très heureux, qui n'avait rien à manger mais qui était très heureux au soleil. Et tout est parti de cette phrase, emmenez-moi, la misère est moins pénible au soleil. Et à partir de là, ils ont fait un texte absolument sublime.
C'est la chanson fétiche des Français qu'ils retiennent quand on parle d'Aznavour.
C'est une belle carrière qui était remplie comme de... à peu près 94 ans, ça fait 34 412 jours d'une vie.
Et je dois vous dire, c'est extrêmement frustrant de parler d'Aznavour en 7 minutes et d'oublier la bohème et tant de grands chefs-d'œuvre, mais on en reparlera, Fabien Lecoeuvre.
Oui, bien sûr. Mais évidemment, Aznavour, c'est intemporel.
Que vous aviez rencontré il y a quelques mois encore. Hein.
Absolument.
Merci Fabien Lecoeuvre. À tout à l'heure. On se retrouve dans un instant,
Marlène. Bien sûr. Bonne fin de journée à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, le grand journal du soir.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Merci de votre écoute et de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, voici tout de suite le journal avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
Le policier en charge de la radicalisation les a rencontrés pour demander comment ça se passe et on lui répond « ça va, on gère en interne ».
Le tueur de la préfecture de Paris avait tenu des propos douteux sur les attentats de 2015. Pourtant, ses collègues n'avaient fait aucun signalement. Christophe Castaner reconnaît des failles, mais exclut de démissionner.
Il y a 7 ans, il défilait contre le mariage homosexuel. Aujourd'hui, les participants de la manif pour tous se sont mobilisés contre l'extension de la PMA à toutes les femmes.
Je suis frontalement opposée et viscéralement opposée. Est-ce que la médecine est véritablement faite pour accéder aux désirs de tout le monde ?
10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, toujours beaucoup de questions et de préoccupations. Toutefois, les habitants de Rouen tentent de reprendre une vie normale.
Je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de psychose qui se met un peu en place, donc on ne sait plus bien trop quoi faire. C'est tout notre quotidien qui est quand même un peu modifié.
Et puis ce dimanche, journée nationale des aidants, ils endossent une lourde responsabilité et sont souvent eux-mêmes à bout. On entendra le témoignage d'une maman qui s'occupe de sa petite fille malade.
Europe 1.
Dans la tourmente après l'attaque à la préfecture de Paris, Christophe Castaner s'est exprimé au journal de 13h pour se justifier.
Le ministre de l'Intérieur reconnaît des failles dans ce dossier, notamment en ce qui concerne certains propos déplacés de l'assaillant Michael Harpon à la suite des attentats de Charlie Hebdo Guillaume Bier.
Oui, ces propos déplacés, l'agent administratif les avait tenus 6 mois après l'attentat de Charlie Hebdo en plein été 2015 au cours d'une conversation avec des collègues qui avaient fait alors un simple signalement verbal, souligne le ministre. Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Certains de ses collègues de travail, deux, auraient en juillet 2015 fait état d'un comportement anormal et d'une altercation suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Le policier en charge de la radicalisation les a rencontrés, les a écoutés. Il leur a demandé expressément s'ils voulaient faire un signalement administratif pour que justement nous mettions en place un système de criblage qui était absolument nécessaire. Ils auraient, selon les informations qui m'ont été communiquées, décidé de ne pas faire de signalement. D'ailleurs, le policier en charge de ces questions de radicalisation reviendra en septembre 2015 pour demander comment ça se passe et on lui répond « ça va, on gère en interne ».
Voilà, on gère en interne. Ça veut dire pas de remontée de cet incident à la direction du renseignement, encore moins au préfet à l'époque. Et pour le ministre de l'Intérieur, c'est sans doute là qu'il y a eu un premier dysfonctionnement, car cet épisode n'a donc jamais été signalé, jamais fait l'objet d'une trace écrite, encore moins d'une enquête qui aurait peut-être permis d'éviter le drame sanglant de jeudi dernier.
Guillaume Bia du service police-justice d'Europe 1.
Sur le volet politique, Sophie Tussaud, Christophe Castaner a répondu aux attaques de l'opposition car depuis 24 heures, ils sont très nombreux à réclamer sa démission, un sujet que le ministre de l'Intérieur a rapidement éludé. Adrien Beck.
Oui, la question se pose-t-elle ? Non, voilà comment Christophe Castaner a évacué le sujet tout en dénonçant le procès politique instruit par ceux qui réclament sa démission. C'est vrai que plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a reçu le soutien de son Premier ministre. L'autorité de Christophe Castaner est-elle entachée ? Certainement pas, a répondu Édouard Philippe à nos confrères du JDD, avant d'ajouter « j'ai toute confiance en lui ». Un ministre très soutenu donc face au feu roulant de la droite et de l'extrême droite depuis 24 heures. Pas question donc de démissionner, même si l'opposition maintient la pression sur le ministre. La droite demande toujours une commission d'enquête parlementaire et Christophe Castaner sera entendu mardi par les 4 députés et 4 sénateurs de la délégation parlementaire au renseignement. Une audition à huis clos pour comprendre, dit un de ses membres, les dysfonctionnements qui ont conduit à l'attaque de la préfecture de police.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Il y a 7 ans, il se mobilisait contre le mariage pour les couples de même sexe. 7 ans après, les participants de la manif pour tous sont redescendus dans la rue. Une journée d'action pour demander le retrait de l'extension de la PMA à toutes les femmes.
Et à Paris, le cortège s'est dispersé il y a peu de temps. Selon le comptage du cabinet Occurrence, 74 500 personnes ont donc défilé dans la capitale. Justin Morin, vous avez suivi cette manifestation pour Europe 1. On est très très loin des chiffres annoncés par les organisateurs.
Oui, effectivement, le grand écran installé ici a affiché 600 000 personnes. Alors vous imaginez la liesse au moment de l'annonce. Tout au long des discours des organisateurs, la mobilisation a été saluée. Un message clair envoyé au président Macron selon eux. Même position chez Bénédicte, venu de Lyon. Il n'est pas trop tard pour retirer le projet de loi sur la PMA.
Je suis frontalement opposée et viscéralement opposée. Est-ce que la médecine est véritablement faite pour accéder aux désirs de tout le monde ? C'est-à-dire, moi j'aurais adoré avoir les yeux bleus. Ils sont marrons, c'est vraiment désolant. À quoi sert la médecine ? Il faut rappeler aux médecins leur serment d'Hippocrate, sinon ils sont capables de... Jusqu'où vont-ils aller ?
pas de père, pas de repère, et liberté, égalité, paternité sont les deux slogans qui ont eu le plus de succès. Beaucoup de manifestants donc, mais peu d'élus finalement, quelques maires. Chez les Républicains, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, député et candidat à la présidence des Républicains, ont aussi dénoncé le risque de glissement vers la gestation pour autrui.
Moi je n'ai aucun garde-fou contre ça, aucun. Maintenant je crois qu'une droite qui n'assume pas d'être de droite, ou qui a la droite honteuse, ou qui a peur de se manifester, c'est une droite qui laisse le champ libre aussi à d'autres partis politiques.
Alors la dispersion s'est faite dans le calme, hein, la circulation a repris ici, mais tous se sont donné rendez-vous pour une nouvelle mobilisation le 1er décembre prochain.
Merci Justin Morin. La manifestation parisienne contre la PMA pour toutes.
On se retrouve dans un instant pour la suite du journal. Pas facile pour les Rouennais de vivre à nouveau normalement après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et puis nous parlerons des aidants avec le quotidien d'une maman qui aide sa petite fille malade. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le grand journal du soir. Europe 1.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Cela fait maintenant 10 jours qu'a eu lieu l'incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen, Sophie.
Oui, les habitants s'inquiètent toujours des conséquences de la catastrophe. Malgré tout, ils tentent de reprendre une vie normale. Élise Dangean.
On va pas rester cloîtré chez soi.
Comme Anaïs, étudiante en droit de 21 ans, ils sont nombreux à avoir réinvesti les rues de Rouen 10 jours après l'incendie. Florence notamment, qui pendant toute la semaine a renoncé à aller au travail en vélo. Elle a donc décidé de s'offrir une petite balade sur les quais de la ville à quelques mètres de l'usine Lubrizol.
C'est complètement dans mon esprit en arrivant ici, j'ai dit « oh là, ça sent ». Alors que peut-être pas, on a quand même toujours ça en tête, quoi. Je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de psychose qui se met un peu en place, donc on ne sait plus bien trop quoi faire, si on doit boire l'eau du robinet, si on peut manger nos fruits, si on peut se promener, si on peut faire un footing dans le bois. Enfin voilà, c'est tout notre quotidien qui est quand même un peu modifié.
Du côté des commerçants, l'espoir est de mise. Après une semaine très difficile, Romain, manager d'un bar sur les quais de Rouen, est confiant. Une partie de sa clientèle est déjà de retour.
Là, il fait pas très très beau. On est au mois d'octobre, il y a quand même un petit peu de monde sur les quais quand même. C'est fait hein, maintenant. Si on devrait s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Pas très loin, un autre gérant de bar m'a confié son optimisme. Pour lui, c'est certain, les Rouennais vont avoir besoin de se vider l'esprit. Et il espère que ce sera dans son établissement.
Élise Dangean à Rouen pour Europe 1.
On ne parle pas assez souvent d'eux et pourtant leur présence est nécessaire. Les aidants, on y viendra d'ailleurs avec mon invité le docteur Hélène Rossineau dans quelques instants. 11 millions, ceux qui se dévouent entièrement à une personne de leur entourage, malade, ils sont des conjoints, des parents, des enfants. Tous ces anonymes sont mis à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale des aidants, Sophie.
Oui, et pour les soulager, pardon, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé un plan avec notamment la création d'un congé rémunéré, une mesure qui pourrait être mise en place dès l'année prochaine. C'est un début, mais ce n'est pas encore assez pour Stéphanie Jacquet. Sa fille Pauline, âgée de 8 ans, souffre du trouble du déficit de l'attention. Elle a dû arrêter de travailler car sa présence aux côtés de son enfant est primordiale.
Notre vie a basculé quand elle a eu 6 ans et quand on a eu un diagnostic officiel. Je me suis complètement sentie perdue puisque c'est vrai qu'après le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est accompagné nulle part. Comme c'est un trouble invisible, on doit sensibiliser, informer les enseignants, proposer nous-mêmes les aménagements scolaires, se battre sans arrêt tous les jours pour tout, pour que en fait la différence de notre enfant soit compensée. Notre rôle, c'est d'être maman, c'est pas de faire tout ça. Même si c'est vrai, quand on est maman, en général, on a beaucoup moins de temps pour soi, mais là, c'est inexistant en fait avec le handicap d'un enfant. Aider les aidants, c'est déjà prendre en compte la réalité du handicap des personnes. Pour l'instant, on ne voit rien.
Stéphanie Jacquet, maman de Pauline, au micro européen de Marion Gauthier.
Aider les aidants, on va un peu plus loin dans 5 minutes avec notre invité donc, qui publie Aidant, ces invisibles. C'était le journal de Sophie Tussaud pour Europe 1 tout à l'heure, Sophie.
Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 19h12.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Faites-nous rêver Valérie Darmon, le beau temps revient-il un peu demain, Valérie?
Oui, au sud, excepté quelques averses matinales sur les Alpes-Maritimes, le soleil s'imposera du Roussillon à PACA, mais Tramontane et Mistral souffleront fort jusqu'à 100 km/h. Des frontières du nord jusqu'à l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, la matinée est encore un tout petit peu pluvieuse et puis ensuite la masse d'air s'assèche et le soleil refait quelques apparitions. Sur le sud-ouest, après un début de journée assez gris, avec quelques brouillards et des brumes, là aussi le soleil va revenir. Et puis de la Haute-Normandie au Poitou-Charentes, c'est l'amélioration. Passées les grisailles isolées du matin, seule la Bretagne et le Cotentin voient leur ciel se recouvrir rapidement annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les minimales, elles seront comprises entre 7 et 10 dans les terres, 10 et 15 en bord de mer. Les maximales ne dépasseront pas 14 à 17 sur la moitié nord, l'Auvergne et le Lyonnais, 17 à 21 sur le sud-ouest et 21 à 24 autour de la Grande Bleue.
Merci Valérie Darmon. Place maintenant au journal des sports, Wendy Bouchard.
Et on retrouve Julien Froment. Rebonsoir Julien.
Rebonsoir.
Avec du foot, la 8e journée de Ligue 1 et un match qui vient de se terminer.
Oui, c'était au Razon Park. Rennes a subi la loi de Reims, décidément très à l'aise avec les gros de Ligue 1 après Lille, Marseille et Paris. Et bien, nouvelle victoire champenoise. 1-0, but signé Boulaïdia. Et puis, un peu plus tôt dans l'après-midi, match nul entre Lille et Nîmes, 2-2.
Ce soir, on vous le disait, c'est le derby Saint-Étienne-Lyon.
Oui, avec un chiffre à retenir, 4. Les Lyonnais restent sur 4 rencontres sans défaite face au rival du Forez. Le milieu de terrain de Lyon, Luka Touzard, a coché ce match sur le calendrier. Ça reste pour lui un des rendez-vous immanquables de la saison.
C'est vrai que ça fait un moment que je suis maintenant arrivé. J'ai eu la chance d'en jouer déjà pas mal. Là-bas, c'est toujours un contexte un peu particulier. C'est assez hostile. Il faut faire face aux sifflets, aux cris, aux chants. Après, on aime tous ce genre de rencontres. Personnellement, ça met du palpitant, voilà, sur la saison. C'est un match à part qu'il faut aborder vraiment d'une autre manière. Que les autres, même si ça reste un match de foot, pour nous c'est primordial et on sait que c'est primordial pour tout le club et les supporters.
Allez, Luka Touzard qui répondait à Maxime Schoch. OS, ASSEOL, coup d'envoi à 21h, mais rendez-vous dès 20h bien sûr sur Europe 1 avec Lionel Rousseau pour l'avant-match, puis avec Christophe Lamar et Anthony Perel au stade Geoffroy Guichard.
Bien monsieur, dernier tour de piste ce soir à Doha au Rallyfa Stadium, on parle des championnats du monde d'athlétisme.
Oui, les sprinteurs français se sont qualifiés pour la finale du 4x400m, peu de chance pour eux de remporter une médaille hélas, mais l'essentiel elle est ailleurs, ce sera leur troisième finale mondiale d'affilée, le sprinter Mam Ibrahan.
Voilà, on remplit le contrat, finale mondiale, qualif pour les Jeux. On est dans la continuité de Pékin, où on fait 6e, Londres 8e. Mais voilà, il faut réussir à avoir une certaine constance et régularité. Mais voilà, montrer que le 4x4 peut être présent sur des finales mondiales pour espérer l'an prochain une finale olympique.
Mam Ibrahan au micro de Corinne Boulou, et sur les 7 finales de ce soir, ce sont les seuls engagés et les seuls qui auront donc peut-être la possibilité de gonfler le maigre bilan français qui est de 2 médailles. Départ du 4x400m à 20h30. Et puis en rugby, le top 14, il y avait aussi un match en cours. Toulon n'a pas tremblé contre La Rochelle. Victoire 21 à 3. Le club du Var remonte à la 7e place. Enfin, un mot de MotoGP. L'Espagnol Marc Marquez, insatiable, il a remporté un 7e titre mondial dans la catégorie Rennes. Succès au Grand Prix de Thaïlande et il a devancé malheureusement dans le dernier virage le jeune français Fabio Quartararo.
C'était un plaisir, Julien Froment, merci. À partir de 20h, c'est Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
À suivre sur Europe 1, votre prochaine invitée, Wendy Bouchard. On va parler santé publique.
Oui, journée nationale des aidants, vous le disait. Mais qui sont-ils? Des conjoints, des enfants, des neveux, des petits-enfants qui prennent soin d'un membre de leur famille? Comment les accompagner eux aussi? Notre invitée nous éclaire sur ce sujet important. Tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard.
19h18, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, nous sommes le dimanche 6 octobre, journée qui mettait en valeur au moins symboliquement ce qu'on appelle les aidants.
Oui, un conjoint, une fille, un frère, un petit-fils, un neveu qui accompagne un de ses proches pour des semaines, des mois, des années parfois, ce que vous appelez les invisibles. Bonsoir docteur Hélène Rossineau.
Bonsoir.
Dans un livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire, vous saluez ces 11 millions de Français qui chaque jour prennent soin de leurs proches. Et vous écrivez qu'ils sont la colonne vertébrale de notre système de santé. Presque l'équivalent finalement des bénévoles qui font tourner les associations. Ils sont essentiels à l'harmonie et au lien social aujourd'hui, ces aidants.
Tout à fait. Même plus que l'harmonie et le lien social, ils sont essentiels à la prise en charge des patients. Aujourd'hui, on essaye de renvoyer un maximum les patients à domicile, via l'ambulatoire, via l'hospitalisation à domicile, ou même le maintien à domicile des personnes âgées. Mais rien de cela n'est possible s'il n'y a pas un proche avec ces patients au sein de leur maison.
Oui, et si on n'était que dans le cynisme, pour parler d'économie, ils permettent, ces 11 millions de Français, d'en faire énormément à l'État.
Exactement. Le seul chiffre que nous avons est un chiffre de la CNSA qui ne concerne que la prise en charge des plus de 60 ans, mais qui montre déjà 11 milliards d'économies par an fait économiser justement à l'État par ses aidants. Donc on imagine à peine ce que ce serait si on prenait en compte tous les aidants.
Vous avez consacré une thèse à ces aidants, vous qui êtes médecin, spécialiste de santé publique et en médecine sociale, parce que ça vous a passionné et je crois que vous avez raison. 11 millions de Français, je le disais, mais un statut qui n'existe pas dans la loi aujourd'hui. Un aidant, ça n'a pas de contour juridique.
Ça en a de manière très différente. Il y a des aidants de personnes handicapées, les aidants de personnes âgées qui sont un peu définis, mais un statut d'aidant global ou inclusif, puisque le terme est très à la mode aujourd'hui,
oui,
n'existe pas du tout. Or, on manque les aidants de personnes atteintes de maladies chroniques, on manque les jeunes aidants, on manque tout un tas d'aidants qui ne sont pas inclus dans ces deux statuts.
Est-ce que ce n'est pas normal au sens où on est dans les liens du sang et dans la famille ?
Alors, c'est ce que disent malheureusement beaucoup d'aidants et c'est ce qui fait qu'ils ne se reconnaissent pas forcément comme tels et que derrière, parfois, ils tiennent jusqu'au craquage et jusqu'au burn-out.
Voilà pourquoi vous dites qu'il faut aider ces aidants aujourd'hui.
Tout à fait.
Vous soulignez une réalité qu'on connaît mal, ces jeunes parfois. Ils sont autour d'un million enfants, adolescents qui consacrent parfois jusqu'à plus de 20 heures par semaine à aider une maman, un papa, des petits frères, des petites sœurs, avec des scolarités qui sont en jeu parfois.
Exactement. C'est très difficile pour ces jeunes aidants. Alors, si les aidants sont invisibles en tant que tels, les jeunes aidants sont encore plus cachés que les autres. On a du mal à imaginer, quand on en parle, un enfant de 8 ans, de 9 ans, qui va aider à faire la toilette de sa maman, qui va l'aider à se lever, qui va aller chercher les médicaments, qui va prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur de manière très régulière. Et pourtant, cela arrive très régulièrement.
On les estime à 500 000, 1 million, c'est
entre ça ? 500 000 et 1,5 million, on est un pays qui n'a pas encore fourni de véritables chiffres précis. Mmh. C'est pour ça qu'une des premières mesures pour moi qui est importante est de mener des vraies études.
Bien sûr. Ce matin, la ministre en charge de ce dossier annonçait qu'un plan aidant serait dévoilé le 23 octobre. Qu'attendez-vous de ce plan ?
Alors, j'attends beaucoup de choses de ce plan. J'ai beaucoup d'espoir. J'aimerais que le système de santé change et prennent en charge les aidants de A à Z, à partir du diagnostic du patient et jusqu'à la fin de la maladie ou au décès du patient. Parce qu'aujourd'hui, les aidants sont lâchés dans la nature tout seuls. Dès que le diagnostic est posé, ils doivent se débrouiller seuls.
Prendre en charge,
les accompagner
avec un congé, avec une rémunération, c'est ce que vous entrevoyez ?
Alors, pas forcément. Pour moi, le congé est un outil qui peut servir dans quelques situations, mais qui, par exemple, n'aurait pas servi dans la situation de cette dame qui vient de témoigner juste avant. La majorité des maladies sont chroniques. Le vieillissement est aussi dans la longueur. Un congé de 3 mois rémunéré ne peut qu'impacter des situations très
aiguës. Bien sûr, oui. Évidemment, la difficulté pour les aidants, c'est que beaucoup n'arrivent pas à conjuguer leur vie professionnelle et cet accompagnement. 50% des aidants travaillent en entreprise, écrivez-vous, et 79% ont des difficultés justement à mener tout cela de front. C'est à eux que vous pensez en premier lieu ce soir ?
Je pense à tous les aidants, mais effectivement, c'est une problématique extrêmement importante parce que on entend beaucoup que les aidants ont du mal à concilier les deux. Et pourtant, le travail est très important pour eux, à la fois parce que c'est une sorte de répit, c'est une bouffée d'air frais, mais aussi parce qu'on tombe trop facilement dans la précarité aujourd'hui à cause d'une situation d'aidant, à cause de la durée, du délai pour avoir des aides, du labyrinthe administratif.
Combien d'aidants quittent leur travail parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ?
On n'a pas de chiffres précis, en tout cas pour la France, on en a pour d'autres pays.
Oui.
Mais il y en a beaucoup, c'est en majorité des femmes, puisque la majorité des aidants sont des femmes aujourd'hui, ou sans même devoir quitter leur travail, qui baissent leur nombre d'heures de travail par semaine. Et si, par exemple, elles aident un conjoint, eh bien, le conjoint passe en arrêt maladie et elles baissent leur nombre d'heures et le foyer tombe vite dans le cercle infernal de la précarité.
Il y a de l'empathie de la part des patrons aujourd'hui. Il y a une certaine bienveillance vis-à-vis de ces aidants dans ce lien plus humain que nous espérons tous.
De plus en plus, mais ça reste un sujet encore assez tabou malheureusement. Pourtant, la qualité de vie au travail est quelque chose de très important dans les entreprises, mais c'est vrai qu'on n'ose pas forcément parler à son employeur, parler à son manager de ce qui arrive chez nous.
Avec le poids psychologique aussi,
exactement,
quand on est aidant sur des cas de longues maladies, de maladies neurodégénératives, et je pense à Alzheimer en particulier. Et alors là, on a un aidant qui est seul au monde, qui n'est pas aidé financièrement, qui n'est pas aidé psychologiquement. C'est ce que vous soulignez aussi, docteur Hélène Rossino.
Tout à fait, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance d'un vrai parcours de l'aidant, et c'est ça que j'attends de ce plan aidant.
Qui pourrait ressembler à quoi ?
Qui pourrait ressembler au fait que les professionnels de santé reconnaissent le rôle de l'aidant et les accompagnent. Une prise en charge personnalisée de l'aidant, parce que deux personnes qui accompagnent chacune un malade d'Alzheimer n'ont pas forcément besoin de la même chose. Certains peuvent avoir besoin d'aide sur l'administratif, d'autres de soutien psychologique, d'autres encore d'autres choses. C'est pour ça que chaque situation est unique. Qui seraient des aides gratuites. Cela existe à Taïwan,
oui,
qui est un système assez remarquable. Ils ont mis en place des centres de ressources pour aidants, un guichet unique vers lequel tous les aidants peuvent s'adresser, sont même redirigés par les professionnels de santé, où ils sont évalués de manière médicale, mais aussi sur le niveau social, et où on met en place un plan personnalisé de prise en charge pour l'aidant. On le guide à travers tout le labyrinthe des aides du pays.
Ça n'existe pas en France, évidemment. Comment vous expliquez qu'on ferme les yeux sur ces réalités-là, alors qu'elle est essentielle ? 11 millions de Français font cela tous les jours, aujourd'hui.
Eh bien, je ne me l'explique pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par en faire un livre. J'aimerais vraiment que les choses changent. Ce n'est pas normal qu'on ignore un sixième de la population.
Alors, j'espère que la ministre ou son entourage était à l'écoute ce soir de vos propos. Docteur Hélène Rossino, aidant ces invisibles, vous qui publiez cet ouvrage aux éditions de l'Observatoire et en qualité de médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale, vous portez ce discours haut et fort. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Merci.
Il est 19h25, voici comme chaque dimanche, Planète Sauvage, l'actualité des animaux en 4 minutes sur Europe 1 avec vous Wendy Bouchard.
Et d'abord en bref, ces mots de Didier Guillaume cette semaine chez Jean-Jacques Bourdin. Celui qui abandonne son animal devrait être puni par la loi. Oui, mais la loi de 1999 qui sanctionne de 30 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans de prison celui qui commet un tel acte est aujourd'hui peu ou mal appliqué parce qu'une grande partie des propriétaires ont des animaux qui ne sont ni pucés ni tatoués.
À la une encore, un jeune écrivain de talent rejoint le prix littéraire 30 millions d'amis.
Et on vous l'annonce en exclusivité sur Europe 1, l'arrivée de Joël Dicker dans ce jury présidé par Réa Hutin, Goncourt des lycéens. Joël Dicker, grand prix de l'Académie française pour la vérité sur le mystère Harry Kébert. Vous êtes l'auteur francophone le plus lu en 2018, passionné d'animaux. Bonsoir Joël.
Bonsoir Wendy.
Peut-on dire, Joël, que vous faites partie de la génération 30 millions d'amis?
Oui, absolument. J'ai grandi avec le magazine, j'ai grandi avec l'émission télévisée, j'ai grandi avec un livre de Jean-Pierre Hutin sur son chien qui était sur la table de nuit de ma grand-mère.
Mabrouk.
Et donc ça, de Mabrouk, exactement. Alors je suis un contemporain de Mabrouk Junior.
Oui, oui.
qui était la mascotte de 30 millions d'amis à peu près au moment où je lisais le magazine, et où moi-même, à ce moment-là d'ailleurs, j'étais aussi éditeur très modestement d'un petit journal consacré à la nature et aux animaux.
Vous avez 10 ans, vous avez été récompensé du prix pour la protection de la nature à l'époque, c'est dire si la conscience était aiguisée si jeune.
Oui, j'avais un amour pour les animaux qui était infini, qui l'est toujours. J'avais une envie d'écrire et puis j'ai associé les deux avec ce petit journal que je fabriquais. Donc, j'écrivais, je faisais moi des photos que j'allais faire imprimer à l'époque, que je collais ensuite sur des pages, que je photocopiais. Oui. Donc c'était très artisanal, c'était avant Internet, c'était avant tout ça. Et il y avait ce plaisir pour moi de partager cet intérêt pour les animaux, intérêt scientifique. Mais donc j'avais ce magazine qui avait presque 1 million de personnes qui le lisaient chaque 2 mois. Et c'était un moyen pour moi très important d'essayer de parler de cette passion et de la communiquer aussi.
Et ben c'est beau et vous allez continuer de le faire à partir du 26 novembre. Le jury va se réunir chez Drouan pour décerner le nouveau prix littéraire. Vous avez rejoint ce jury, Joël Dicker avec Irène Frein, Michel Houellebecq, Teresa Crémisi, Didier Descoings, Frédéric Vitoux, Frédéric Lenoir, Didier Van Kovelaert. L'amour de l'écriture et des animaux vous réunit.
C'est quelque chose de très important pour moi parce que ça me permet de lier comme ça ces deux mondes que sont et les animaux et la littérature.
Oui,
et
quand Réa Hutin, la présidente de 30 millions d'amis, vous a proposé de rejoindre le jury de son prix littéraire, elle a compris votre enthousiasme et votre réponse fut naturelle. Joël Dicker, pour terminer, vous êtes un écrivain à chat ou un écrivain à chien? Puisque vous nous avez dit en préambule
à
votre
chien.
Amour des chiens, c'est ça, ça continue.
Je suis un écrivain à chien.
Vous en avez encore près de vous?
J'en ai malheureusement plus. J'ai une vie qui maintenant ne me permet pas vraiment d'avoir un chien parce que je suis très souvent en voyage, très souvent absent. Mon chien est mort il y a maintenant 3 ans. Et j'attends impatiemment le moment où je serai un peu plus attaché à Genève et où je voyagerai un peu moins pour avoir de nouveau un chien dans ma vie parce que je trouve qu'une vie sans chien, en tout cas pour moi, est une vie qui n'est pas complètement pleine.
Dans le souvenir de Mabrouk Junior et de Mabrouka, on l'avait oublié la petite dernière de la famille Hutin. Merci. Absolument. Merci infiniment Joël Dicker et donc ravi de vous
Merci
annoncer
beaucoup,
sur Europe 1 que vous entrez au jury du prix littéraire 30 millions d'amis. À bientôt Joël.
Merci à vous, à bientôt, bonsoir.
Et on termine Wendy avec cette exposition à Toulouse.
Absolument, au Muséum d'Histoire Naturelle, exposition sur les risques d'extinction de masse avec des espèces déjà disparues comme le dodo ou le dauphin de Chine et celles menacées sur lesquelles la Ville Rose sensibilise jusqu'au mois de juin prochain.
Et cette dernière demi-heure sur Europe 1, eh bien, elle est réservée au grand débrief de l'actu.
Oui, avec l'éditorialiste Yves Tréhard du Figaro qui nous rejoint, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. On va revenir évidemment sur les heures sombres à la préfecture de Paris, mais aussi sur l'incendie de Rouen, la manif PMA aujourd'hui, l'actualité dans tous les sens. Vous pouvez réagir aussi au 39-21. A tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
L'essentiel de l'information avec Sophie Tussaud.
Christophe Castaner exclu de démissionner, mis en cause après l'attaque jeudi à la préfecture de Paris. Le ministre de l'Intérieur reconnaît des failles, mais répète qu'aucun signe de radicalisation n'apparaissait dans le dossier administratif de l'assaillant. Liberté, égalité, paternité, c'est sous ces mots que les anti-PMA pour toutes ont défilé cet après-midi à Paris. Ils étaient 74 500 selon le comptage du cabinet Occurrence, à réclamer le retrait de cette mesure portée par le gouvernement. Un chiffre loin des 600 000 annoncé par les organisateurs. Une agression homophobe à Lyon. Trois jeunes hommes qui sortaient d'une discothèque la nuit dernière ont été roués de coups par trois individus. Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite. Les victimes ont reçu le soutien du maire, Gérard Collomb. Le geste d'apaisement du gouvernement irakien après cinq jours de violentes manifestations et la mort de 100 personnes. Bagdad annonce une série de mesures sociales allant de l'aide au logement à l'allocation de pensions aux jeunes sans emploi. Le chômage étant la première revendication du mouvement actuel de contestation. Autre mouvement de contestation à Hong Kong, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser aujourd'hui des milliers de manifestants qui bravaient l'interdiction de défiler le visage masqué.
Merci Sophie Tussaud. Vous êtes bien sur Europe 1. 19h32, c'est l'heure de notre grand débrief de l'actu Wendy Bouchard.
Les grands sujets des dernières heures passés au crible de la gestion du drame à la préfecture de police, à la manif PMA de ce dimanche. Voici les invités d'Europe 1 jusqu'à 20h ce soir. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Pour commencer, messieurs, évidemment, le drame de la DRPP, qualification terroriste de l'attaque, imbroglio autour du dossier de l'homme qui a tué quatre personnes au couteau. Christophe Castaner, qui à midi, Yves Tréhard, balaye pour l'instant la question politique de sa démission, qui ne se pose pas pour lui. En effet, on se concentre sur l'enquête et sur les différentes responsabilités dans ce dossier.
Oui, c'est normal d'ailleurs qu'on se concentre sur les faits, parce que c'est quand même ça le plus important. Et c'est vrai que j'entendais plusieurs responsables politiques parler d'un scandale d'État. Mmh. C'est un scandale d'État, mmh, puisque c'est quand même absolument incroyable qu'à l'intérieur d'un service de renseignement, qui était déjà sur la sellette, si j'en crois Laurent Nunez, il y a quelques années, où il était question de le dissoudre pour le rattacher à la DGSI, eh bien, comment cet homme, qui est là depuis longtemps, qui est non pas un fraîchement converti à l'islam, mais qui est là, qui est converti depuis une dizaine d'années, comment il peut être habilité secret défense, donc il a affaire à des informations sensibles, comment tout ça a pu se passer. Alors, au-delà des hommes qui dirigent la France, et Castaner, c'est le premier flic de France, c'est vrai, il a parlé probablement trop vite, mais il a parlé avec les documents et les éléments
dont il disposait.
Voilà, simplement, je pense que pour beaucoup de Français, cette histoire est extrêmement anxiogène et qui se disent que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, en n'importe quelle circonstance. Je trouve que néanmoins, le ministre de l'Intérieur aurait peut-être dû au moins dire moins de choses vendredi ou parler que quand il avait suffisamment d'informations.
Oui, dans ces cas-là, on évoque plusieurs hypothèses puis on referme les portes progressivement, Adrien Taquet.
Ce qui compte, c'est de savoir effectivement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il était absolument nécessaire que le Premier ministre annonce ce matin le lancement d'une inspection par l'inspection des services de renseignement pour justement faire toute la lumière sur ce qui a pu se passer et où les failles, car il y a eu failles, puisqu'il y a eu, cet attentat, se sont produites. Il semblerait que dans le dossier, aucun élément ne faisant état de la radicalisation de cette personne n'a été mentionné. À voir pourquoi, alors qu'il semblerait qu'il y ait eu des éléments factuels qui pu laisser penser que ça n'ait pas été remonté, mentionné. Et
oui, on aurait pu imaginer que, par mal intention, ces mots aient été confiés à... Pardon, je suis en train absolument de me confondre. Je cherche le nom de Christophe Castaner. Merci. Ces mots étaient confiés à Christophe Castaner par peut-être une mal intention de l'équipe interne. Simplement, a priori, le dossier est vide, Yves Tréhard, tout simplement.
Il y a une question de procédure quand même aussi que je voudrais voir. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la procédure? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ces faits dramatiques. Et le parquet national, pas le parquet antiterroriste, le parquet de Paris plutôt, et les responsables politiques ont tardé, faute d'éléments, à confier l'enquête à l'antiterrorisme. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de dire tout de suite, puisqu'on connaît le profil du personnage, on sait qu'il est musulman, il y a des chances que ça soit
aussi, quand même... Il y a une hypothèse.
Tout de suite, confier ça à l'antiterrorisme, quitte à faire marche arrière après, parce que d'une certaine façon, ça rassure les gens.
C'est
les gens
en général
se disent,
le processus.
Bon, bah, ça y est, mais ils vont au plus grave, et puis après, pourquoi pas, si c'est pas du tout du terrorisme, on revient en arrière. Tandis que là, on a l'impression, en ne confiant pas le dossier tout de suite à l'antiterrorisme, tout de suite, vous avez dans le public des théories du complot qui se manifestent. On ne nous dit pas la vérité. Enfin, vous connaissez, il y a eu la même chose pour Rouen. Hein,
et ça alimente malheureusement le discrédit vis-à-vis de la parole publique.
Oui, mais ce qui est important sur le fond, Yves Tréhard, je suis convaincu que vous me rejoindrez là-dessus, c'est que l'on fasse toute la lumière sur ce qui a pu se passer et comment on aurait pu éviter ça. Et quand le Premier ministre, ce matin, dans le journal du dimanche, dit qu'il faut resserrer les différentes mailles, il faut que l'on revoie les procédures qui permettent de respecter.
Voilà, la chaîne de responsabilité va commencer.
Vous savez très bien que la communication, on est dans un siècle de la communication. La communication est aussi importante.
Mais moi, c'est la gestion de la crise plus que la communication de crise qui m'importe. Et je pense que pour l'avenir, pour rassurer nos compatriotes, je pense que c'est ça qu'il faut régler et améliorer.
Je voudrais vous livrer une enquête IFOP donnée hier par Frédéric Dabi après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen sur la parole publique, justement. 73% des Français pensent que les autorités ont caché certaines informations. On est dans un autre dossier. Mais il y a ce discrédit. Considère que la réactivité des hommes politiques n'a pas été exemplaire alors qu'ils étaient sur site quelques heures après
Christophe Castaner, absolument.
Voilà.
Et puis rapidement,
mais il y a ce doute qui gonfle malheureusement Adrien Taquet. Vous mettez sur quel compte, vous, ce soir?
Bah écoutez, effectivement, on le voit globalement, au-delà de ce qui s'est passé à Rouen, que la parole publique a du mal à être crédibilisée par les gens, mais tout comme la parole des experts, de plus en plus. Et pour citer, alors je le cite... rarement, ça c'est une référence qui fera peut-être plaisir à Yves Tréhard, mais Alain Finkielkraut, dans La défaite de la pensée, il y a déjà 20 ans, disait... 30 ans, oui, le temps passe vite, vous avez raison. Nous sommes dans une société où tout se vaut et où Shakespeare vaut une paire de bottes. Et c'est ça la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous responsables politiques notamment, c'est que notre parole équivaut tout autre. Donc je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie, à faire montre de transparence, un des sujets, et je pense qu'on a fait montre de transparence dans le monde, mais vous savez, et une fois encore, je me permets de le redire, Yves Tréhard, je pense qu'il faut dissocier la communication de crise et la gestion de la crise. Je pense que sur la gestion de la crise sur Rouen, le gouvernement a fait tout ce qu'il avait à faire. Vous savez, dans ces situations-là, ce sont des situations exceptionnelles. Il n'y a pas eu d'événement comme celui-ci depuis AZF, sauf erreur. Et le gouvernement, en l'état de ses connaissances, à régler la situation, communiquer en l'état de ce qu'il savait. Et puis, il y a des informations nouvelles qui apparaissent chaque jour. Le Premier ministre a été très clair là-dessus. On fera toute la transparence. Dès que l'on sait des choses, on communique dessus pour rassurer l'ensemble de la population.
Yves Tréhard, sauf que quand on voit les citoyens, en effet, aller contacter les services scientifiques, faire leurs propres relevés, faire leurs propres enquêtes dans des actes de désobéissance civile, ça pose question.
Oui, mais il va falloir qu'on s'y... Malheureusement, je ne sais pas quelles sont les parades à cela, mais c'est un mouvement de fond qui existe depuis, vous avez raison de citer la défaite de la pensée de Finkielkraut. Ça, depuis l'avènement des médias, enfin de la société médiatique et le développement de cette société médiatique. Finkielkraut, quand il écrivait La défaite de la pensée, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Alors imaginez-vous aujourd'hui. Et c'est vrai, on parle par exemple de journalisme citoyen.
Oui,
n'importe
qui
est journaliste aujourd'hui. N'importe qui est expert. Pourquoi? Parce que les outils sont à la disposition de tout le monde. Mais sauf que le savoir-faire n'est pas à la disposition de tout le monde, justement. Et si on veut... On a une responsabilité, nous autres journalistes aussi. N'importe qui n'est pas journaliste. Nous, si on fait notre métier, c'est qu'on va chercher l'information, on la vérifie,
bien sûr,
on la recoupe, vous le savez très bien. Et on a cette... Mais malheureusement, les outils qui sont à la disposition du grand public aujourd'hui, le monde est hyper connecté, et bien et je vais vous dire une chose, personne n'a encore trouvé la parade. Et ça va aller de mal en pis. C'est-à-dire que la défiance vis-à-vis de la parole publique,
Adrien Taquet,
on n'en est qu'au début. Ça va être de pire en pire.
Est-ce que ça veut
dire ? On ne vous croit pas. Et quand, en plus, vous avez des sujets sensibles, je ne sais pas si on va en parler de la PMA.
Bien sûr.
Quand vous avez le gouvernement qui vous dit non, la PMA, ok, mais on n'ira pas à la GPA. C'est un sujet hyper important, ça.
Tout ça
s'entrechoque. Et bien sûr qu'on y va à la GPA. Oui, les gens ne croient plus à rien.
Bon, et est-ce que ça passe par le fait d'occuper le terrain, Adrien Taquet, vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de la petite enfance, d'être au contact, par exemple, des familles, des parents à Rouen qui doutaient ces derniers jours de la santé de leurs enfants et de l'exposition à ces risques
sanitaires ?
Bien
sûr, je pense qu'il faut être situation d'empathie forte dans ce genre de situation, parce qu'il y a des craintes, des angoisses légitimes qui s'expriment. Et je veux dire, j'ai des enfants moi aussi, et je vivrai à Rouen en ce moment, je me les poserai de la même façon. Donc il faut probablement une présence renforcée
de notre part.
La ministre Buzyn y a été, moi il n'est pas
une
prévu
fois.
Que j'y aille. Oui, mais enfin, vous savez, toutes les procédures, les cellules scientifiques, notamment d'alerte, etc., ont été mises en place. Je pense que c'est ça qui compte davantage que la présence du ministre, même s'il est important, très vite, dans ce genre d'événement. Et c'est ce qu'a fait Christophe Castaner dans un premier temps, puis très rapidement, le Premier ministre, Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, et de la même façon, le ministre de l'Éducation nationale, d'être là pour rassurer, montrer que l'on est présent en empathie, en écoute et en réassurance.
Autre actualité des dernières heures, et on y vient juste après la pause, messieurs Yves Tréhard et Adrien Taquet, la manif du jour contre la PMA. Beaucoup d'enfants de PMA qui sont exprimés d'ailleurs ces derniers jours.
Et c'est très bien.
Et des Républicains assez divisés sur le sujet. Peu de politique dans les cortèges. Qu'est-ce que ça dit de la marche sociale, peut-être, de la loi ? À tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, Wendy Bouchard.
19h44, la suite de ce grand journal du soir sur Europe 1 avec le grand débrief qui se poursuit avec vous, Wendy Bouchard, et avec vos deux invités.
Absolument, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je vais vous faire réagir, Adrien Taquet, tout de suite à la mobilisation du jour. Bon, on a eu, comme à chaque fois, le chiffre des organisateurs, le chiffre du cabinet occurrence, on va dire 80 000 personnes dans les rues. À partir du moment où le texte a déjà été voté, en partie par les parlementaires, à quoi servait pour vous ce type de rassemblement ?
Écoutez, c'est pas à moi de juger ça. Moi, j'ai énorme respect pour les gens qui manifestent, évidemment, et puis pour les gens qui sont d'ailleurs opposés à la révision de ces lois de bioéthique et en particulier à l'extension de la MP, de la PMA à toutes les femmes. Mmh. Alors le texte, si je peux me permettre, n'est pas totalement voté. Il y a une grande partie qui l'a été. Les discussions vont se poursuivre la semaine prochaine. Et puis ce n'est que les discussions à l'Assemblée nationale. Ça va ensuite partir au Sénat, revenir à l'Assemblée nationale, repartir au Sénat. Bref, la navette parlementaire, comme on dit, est encore assez longue.
En tout cas, pour l'extension de la PMA, tous les couples de filles.
Écoutez, moi, je me réjouis.
On est sur la bonne voie.
Oui, on est sur la bonne voie et j'ai envie de vous confirmer, même si je ne veux pas anticiper sur les prérogatives du Parlement dans ce pays, je peux vous dire qu'elle sera effectivement élargie. Moi, je me réjouis de voir la qualité des débats. Enfin, moi, j'ai été au banc aux côtés d'Agnès Buzyn une partie de la semaine dernière. Les opposants à PMA, ceux qui sont favorables ou sur d'autres sujets qui sont tout aussi engageants pour notre société. Qualité débat est très très élevée, très très bonne, dans un respect total. Et j'ai l'impression que la manifestation d'aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu se passer en 2013 pour le mariage pour tous, s'est aussi déroulée dans une sans débordement et sans parole déplacée.
Oui, avec peut-être quand même pour les manifestants la volonté de faire pression, parce que jeudi à l'Assemblée nationale, il y a cet amendement qui pourrait automatiser la reconnaissance en France de la filiation sous forme d'adoption entre un parent d'intention et un enfant conçu par GPA à l'étranger. Vous y êtes favorable, Adrien Taquet ?
Nous y sommes absolument défavorables. Mmh. C'est un amendement qui a été porté par un parlementaire de la majorité. Effectivement, on peut le dire. Vous savez que sur ces sujets qui sont complexe, qui renvoie beaucoup à l'intime. Vous savez, sur tous ces sujets-là, on a tous une relation personnelle à ces sujets. Ça se voit parmi les parlementaires. Le député a voulu porter cet amendement, effectivement. Nous y sommes opposés. Il a été, dans la nuit, effectivement adopté à une voix près. C'est la raison pour laquelle Agnès Buzyn a immédiatement demandé un nouveau vote, ce qui est possible, qui aura lieu jeudi, comme vous le dites. Non, nous sommes opposés. Une GPA qui a lieu à l'étranger. Il y a quand même la nécessité de sécuriser la filiation pour l'enfant. Et c'est important, c'est quelque chose qui m'importe particulièrement vu d'où je vous parle. Mais il y a une procédure qui existe, ça passe par l'adoption.
Oui.
La Convention européenne des droits de l'homme a reconnu que le système français qui passait par l'adoption était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, respecter les droits des parents et sécuriser la filiation des enfants.
Donc, ces petits-enfants sont toujours fantômes de la République française ?
Ah non, ils ne sont pas fantômes. On peut aujourd'hui adopter... Des parents peuvent adopter un enfant qui est né de GPA à l'étranger et ça restera ainsi.
Yves Tréhard,
pas de reconnaissance automatique.
D'accord, beaucoup rêvaient dans le cortège aujourd'hui de refaire un petit peu la grande marche contre le mariage pour tous, mais ça a beaucoup changé dans l'opinion, dans les sondages aussi. On a une majorité de Français qui soutient l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. C'est un niveau record, donc on est très loin des impressions de l'époque.
Je ne suis pas si certain que ça.
68%.
Je vous rappelle d'abord que les premières manifestations hostiles au mariage pour tous, c'était des manifestations dont on n'avait pas beaucoup parlé, on ne les avait pas vues venir, ça a monté en puissance, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, 75 000 personnes dans la rue, Je vous signale que c'est quand même le triple des manifestations syndicales qui ont lieu ces derniers temps, le 1er mai ou sur des grandes mesures.
De toute la France. Hein.
Donc c'est pas mal quand même. Hein. Bah oui, mais c'est quand même énorme.
Oui.
C'est une très grosse manifestation. Troisième chose, c'est pas un sujet anodin. Effectivement, moi j'aime bien le débat est d'un haut niveau, mais c'est pas un sujet anodin, c'est un bouleversement anthropologique de notre système social, d'une certaine façon, de notre système familial en tous les cas, et ça mêle des, si vous voulez, des convictions à des connaissances scientifiques, biologiques, qui peuvent nous entraîner très très loin. Il faut que il n'y a pas de science sans conscience. On est d'accord. Il
n'y a pas. C'est tout l'objet de la loi de bioéthique d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui est souhaitable dans ce qui est voilà. Techniquement possible.
Donc, moi j'aurais deux remarques à faire. Je comprends tout à fait les gens qui sont. D'ailleurs, je comprends mieux les gens qui sont hostiles à la PMA qu'au mariage pour tous. Première chose. Parce que le mariage pour tous, bon bah ça change. Bon, ok, ils se marient, mais il n'y a pas des questions de filiation.
Oui.
Et d'ailleurs, la grande hypocrisie de Madame Taubira à l'époque. C'était d'avoir fait la PMA et de M. Hollande, qui n'y connaissait rien, et d'ailleurs qui n'en avait pas grand-chose à faire, il faut le dire, parce qu'il avait même dit au maire, si vous voulez les marier, vous les mariez, si vous voulez pas les marier, vous les mariez pas. C'est quand même le problème de la filiation. Et la deuxième chose, et c'est là où il y a un mensonge.
Il y a deux mensonges quand même, M. Tréard, depuis
2013. Le mot est grand et fort, mais c'est quand même quelque chose que je voudrais affirmer ici. Il y a un mensonge d'État.
C'est-à-dire ?
Qui est évidemment que la PMA nous conduit tout droit à la GPA. Pourquoi ? C'est une question d'égalité. Si vous avez, pour les femmes, le droit de femmes homosexuelles, le droit d'adopter un enfant, enfin d'avoir un enfant, je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, le Conseil constitutionnel
ne jugerait pas la rupture d'égalité.
Ah bah écoutez, deux hommes peuvent avoir un enfant.
Je vais vous dire pourquoi.
Alors, répondez-nous, Adrien Taquet.
Je suis content que vous soyez empreinte d'un coup comme ça d'égalitarisme très français.
Répondez-nous, Adrien Taquet.
Écoutez, donc je me permets de réfuter tout aussi solennellement ce que vous venez d'affirmer. Non, le gouvernement, ni celui-ci, et puis ni sous la prochaine mandature, n'acceptera la GPA en France. Pour quelle raison ? Parce que ça contrevient à d'autres principes fondamentaux de notre société.
C'est-à-dire la marchandisation
et
du corps
le conseil, et auquel, le Conseil constitutionnel que vous évoquez se référera. Et vous savez très bien que le Conseil d'État, on ne va pas tomber dans du juridisme pour vos auditeurs, mais dit qu'à situation différente, régime juridique différent, et que ça ne pose pas de problème d'égalité. Et le Conseil constitutionnel dira que la dignité de la personne humaine et que la marchandisation du corps sont des principes constitutionnels qui sont supérieurs à ceux de l'égalité que vous voudriez...
Vous avez une belle confiance, là, pour le coup.
J'ai une grande confiance, oui, effectivement, oui.
Moi, je crois que ça ne peut pas tenir. Je crois sincèrement que
non,
ça ne peut pas
juridiquement,
tenir.
Non, mais juridiquement, enfin, si, moi, j'ai une conscience. Vous savez, c'est pas une loi de bioéthique, ce n'est pas une loi d'égalité. On essaye, et certains qui même voudraient aller plus loin,
qui
voudraient aller plus loin que ce que l'on fait. Bien sûr.
Inscrit au fronton de nos écoles et de tous les établissements de l'État public.
Vous avez tout à fait raison, mais une fois encore, les hautes instances administratives de ce pays ont encadré ce principe d'égalité. N'est-ce pas de l'égalitarisme à tout craint, à situation différente. Possibilité d'avoir un traitement
différent. Alors expliquez-moi, le raisonnement par l'absurde.
L'égalité pour l'intérêt de l'enfant dans les deux cas ? C'est peut-être ça aussi que vous voulez souligner ?
Une chose évidente, c'est que
on
vous dit la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes. Actuellement, la procréation médicalement assistée était autorisée aux femmes infertiles. Ou aux couples infertiles, plus exactement.
Oui,
couple infertile. Et l'argument, c'est de dire, mais quelle égalité ? Quelle inégalité ? Et les femmes qui peuvent, qui ne sont pas alors les autres, comment, pourquoi elles n'auraient pas le droit à ça ? Donc, égalité entre toutes les femmes. C'est l'argument massue. Alors, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi, entre les deux sexes, il n'y aurait pas aussi ce principe d'égalité qui prévaudrait.
Vous dites qu'on est sur d'autres considérations.
Moi, je pense que c'est une conversation qui est évidemment très longue, qui est une conversation compliquée, mais je suis persuadé qu'on ira tout droit là, on y répondra pour les hommes.
En tout cas, voilà, vous dites ce soir dans les studios d'Europe 1 que sous cette mandature et la suivante, la GPA ne sera pas adoptée.
Vous êtes encore le président de la République, va être élu.
Il s'est engagé. Enfin,
je me permettais effectivement, de façon un peu présomptueuse, de me projeter un peu. Voilà. En tout cas, sous celle-ci, sous ce gouvernement, pas de GPA.
Adrien Taquet, on était ravis de vous recevoir ce soir et on vous recevra de nouveau pour parler ces considérations aussi d'enfants, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Monsieur Yves Tréard, merci beaucoup, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'est toujours un plaisir aussi, Yves. On se retrouve dans un instant avec l'humeur du temps, l'air du temps. Monsieur François Claus pour vous servir.
19h54, Wendy Bouchard, on va terminer ce grand journal du soir avec François Claus.
3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
C'est votre humeur chaque dimanche soir. Bonsoir François.
Bonsoir Wendy. J'ai beaucoup pensé à un poème cette semaine qui m'a renvoyé à mes jeunes années. Allez, je vais vous le livrer tel quel. Il est signé Jacques Prévert. Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas pour ceux qui sont dans les prisons. Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas pour ceux qui écaillent le poisson. Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas pour ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air. Que tout va pour le mieux. Oui, j'ai pensé à Prévert, notamment en lisant l'excellent hebdomadaire d'Éric Fotorino, le 1, découvrant stupéfait la réalité de ceux qu'on peut qualifier de nouveaux prolétaires du web. Ils sont en Inde, ils sont en Afrique, en Amérique du Sud, scotchés 24 heures devant leur ordinateur. Ils testent l'intelligence artificielle pour Monsieur Google, pour Monsieur Siri, pour Monsieur Amazon, devant cliquer à longueur de journée, reproduisant le même geste, entourant par exemple un personnage sur une photo avec leur souris, ou devant une webcam, refaire le même geste, enlever, remettre des lunettes, lever le bras de manière insensée. On n'est pas loin de la cave de Prévert devant l'ordinateur. J'ai pensé à lui aussi, au poète, en suivant le parcours de ces 5 livreurs de Deliveroo qui sont partis de Bordeaux pour rejoindre Paris et dénoncer leurs nouvelles conditions de rémunération. Et je me suis dit que même sur un vélo, le soleil ne devait guère briller quand on roule 50 heures par semaine pour moins de 2 000 euros. J'ai pensé à Prévert en regardant les derniers chiffres de l'immobilier à Paris. 12 000 euros le mètre carré dans certains arrondissements. Quand des étudiants doivent aujourd'hui, en cette rentrée universitaire, ils doivent débourser 800 euros par mois pour une chambre de bonne, parfois sans salle de bain. Je me suis même demandé, Wendy, si notre président Emmanuel Macron n'aurait pas lui-même relu son Prévert en reprenant son bâton de pèlerin réformiste sur la question des retraites, partant à Rodez pour rassurer le bon peuple qui craint de ne guère profiter du soleil après une longue vie de labeur. Rodez a quelques encablures, bien sûr, du magnifique musée Soulages. Et l'analogie est là, le grand peintre qui nous a plongé dans le noir, mais qui nous a aussi appris que du noir pouvait venir la lumière. Alors on va le prendre comme une image et se dire qu'un jour, peut-être, le soleil finira par briller pour tout le monde. Faudrait-il que 230 ans après la Déclaration des droits de l'homme, une nouvelle philosophie des Lumières vienne éclairer l'autre révolution, la numérique.
Je les soleil.
Les temps changent et on les suit changeant et changer avec vous, François Claus. Merci beaucoup. Et à dimanche prochain. Merci mes chers amis.
Merci Wendy Bouchard.
Kevin Ousti pour la réalisation. Samy Jérémy qui reprend le flambeau. Naïma Bencheban pour la programmation. Monsieur Fabien Lecoeuvre qui passe 2 heures de belle session avec nous. Merci
avec
encore,
bonheur.
Cher Fabien.
À très vite.
Et à vous,
à
Marlène.
Samedi.
Merci pour tout. Merci de votre fidélité, chers amis. À samedi, 18h.